Vous écoutez
RMC.
RMC, il est midi 56, l'intégral sport arrive tout de suite avec Christophe Cessieux et toute son équipe.
Merci Alfred, avant le coup d'envoi de Nantes-Brest qui va être donné dans quelques instants, on va aller faire un tour à Horfilsen, c'est toujours à Horfilsen me semble-t-il, oui, Julien Richard, les compétitions de biathlon avec une Française qui est en train de réaliser un truc incroyable, elle a déjà gagné tout au long du week-end, Justine Brezaz en route peut-être vers un troisième succès Julien.
Alors c'est pas en Autriche, c'est en Suisse, c'est
en Suisse,
à Lenzerheide que ça se passe, mais là où tu ne trompes pas c'est qu'on a une Française qui est vraiment au-dessus du lot et qui est sur son petit nuage, Justine Brezaz-Boucher, vainqueur du sprint de la poursuite et qui pourrait enchaîner avec un incroyable triplé et peut-être même le dossard jaune de leader de la Coupe du Monde à l'issue de cette course. Elle est en tête avec 13 secondes d'avance sur Lisa Vitozzi et 25 secondes d'avance sur Julia Simon en 3ème position à l'approche du dernier tir. Elle est à 15 sur 15 en route pour le 20 sur 20 dans cette mass start. Elle est championne olympique de la distance.
Dans combien de temps la dernière phase de tir?
Ça va arriver assez vite hein. Elles viennent de passer à l'intermédiaire 9 km 200 et le prochain c'est l'arrivée sur le pas de tir, donc je dirais d'ici une grosse minute.
Eh ben on va revenir vers toi dans un instant.
Votre émission sur RMC avec Nikon Verre Optique. Ne manquez aucun détail de la compétition de biathlon. Ceci est un dispositif médical.
Et puis vous le savez, dans un instant, le coup d'envoi de ce premier match du dimanche après-midi. C'est la 15e journée de Ligue 1. Nantes reçoit Brest. On va vivre ce match avec Pierre-Yves Leroux qui est sur place évidemment à la Beaujoire et avec Sébastien Piocelle. J'ai deux canaris dans les pattes là, si j'ai bien compris. Bonjour messieurs.
Salut Christophe, salut Pile.
Christophe,
bonjour,
salut
à tous.
Seb, vous arrivez juste au moment où il y aura 7 minutes de silence à la Beaujoire en hommage à Maxime, le supporter qui est décédé il y a 15 jours avec un grand tifo sur toute cette tribune Loire. Max pour toujours, et les joueurs se sont échauffés avec un t-shirt qui portait cette phrase. La minute de silence qui débute à l'instant.
Ok, ensuite le coup d'envoi de ce match important, ce Nantes-Brest, Sébastien, on va voir ce que donne ces Nantais qui sont plutôt pas mal ces derniers temps quand même.
Ouais, ils sont mieux depuis l'arrivée de Jocelyn Gourvennec, même s'il y avait des choses intéressantes aussi avec Pierre Aristouille. Mais là, Brest, c'est un gros client. Voilà, mais c'est l'occasion pour les Nantais, quelque part, d'enchaîner en termes de contenu ce qu'ils ont fait sur les deux dernières rencontres face à un adversaire qui va certainement leur laisser la possession. Voilà, donc c'est un bon test pour les Canaries, cette équipe de Brest en face.
Très bien. Coup d'envoi dans quelques instants, juste après l'hommage donc rendu à ce supporter tué il y a de cela 15 jours aux abords du stade. On repart à Lenzerheide pour la dernière séance de tir de Justine Brezaz dans cette épreuve de la Mastart. C'est la première Mastart de la saison et Justine Brezaz est sur un nuage depuis le début du week-end. Va-t-elle réaliser le sans faute? La réponse est dans un instant, Julien.
Et il y a énormément de choses au bout de la carabine de Justine Brezaz-Boucher. Il y a le 20 sur 20 qui se profile, la victoire dans cette Mastart, un incroyable triplé sprint poursuite Mastart et puis peut-être aussi le dossard jaune de leader de la Coupe du Monde à l'issue de ces 5 derniers balles de cette première Mastart de la saison. Justine Brezaz-Boucher, championne olympique en titre de la Mastart, qui a donné naissance en février dernier à une petite Côme qui est présente avec son mari dans les tribunes de Lenzerheide. Allez, c'est parti, la visée pour Justine Brezaz. La première balle, c'est dedans. Pour l'instant, c'est un sans faute. Elle est incroyable de maîtrise. 2 sur 2 pour Justine Brezaz. 3 sur 3 alors que Vitozzi arrive sur le pâtir. 4 sur 4 pour Justine Brezaz-Boucher. Et le plein, la victoire qui se profile, qui se décide. On a vu, esquisse un petit sourire. Justine Brezaz, elle avait une petite balle de marge, on va dire. Eh bien, elle n'en a pas eu besoin. La victoire pour Justine Brezaz-Boucher. La deuxième place peut-être. Aïe, 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 dommage pour Julia Simon qui rate la dernière balle.
Ah, dommage.
Ouais, dommage. Lisa Vitozzi, 4 sur 4. La dernière, c'est bon. Il ouais, n'y aura pas de deuxième place pour Julia Simon, a priori. Et Elvira Heuberg repart avec le plein également. Donc, à la sortie du dernier tir, Justine Brezaz en tête devant elle, Anna Heuberg et Lisa Vitozzi.
Incroyable quand même, hein, parce qu'un triplé le même week-end, c'est quand même assez rare. Il n'y a que les Johannes Bö, les Martin Fourcade et autres qui ont réussi ce genre de choses, hein, Julien. C'est énorme.
Oui, c'est énorme, c'est énorme. Puis voilà, on sent la montée en puissance, on sent aussi dans son discours qu'elle est totalement différente hein, depuis son retour de maternité, beaucoup plus posée, beaucoup plus calme aussi derrière la carabine. On le voit, hein, c'est 20 sur 20, hein, c'est pas anodin, 20 sur 20 en poursuite. Ça lui est pas arrivé souvent aussi à Justine Brezaz-Boucher. Et elle prend de l'épaisseur aussi, justement, pour ce dossard jaune de leader de la Coupe du Monde. Pour l'instant, il est sur ses épaules, puisqu'il faudrait que Ingrid Tendrevold, la leader actuelle, ne soit pas sur le podium et Tendrevold est 5e à 23 secondes et à 4-5 secondes du podium. Donc on va aussi surveiller ça dans le dernier tour de cette course.
Très bien, à tout de suite Julien pour la fin de cette course, mais la victoire se dessine pour Justine Brezaz-Boucher. Le coup d'envoi a été donné, Pierre-Yves à Nantes, à la Beaujoire, entre les Canaries et Brest. Voilà un duel breton, me semble-t-il.
Exactement, même Brendan Chardonnay, le Finistérien, bon, c'est comme ça, tu vois, donc il connaît son histoire, il sait les limites de la Bretagne jusqu'au sud de la Loire-Atlantique. Les Brestois en possession de balle 0 à 0, 2 minutes de jeu ici, un petit peu de brume, elle est liée aux fumigènes qui viennent d'être allumés en hommage donc à Maxime par les supporters de la Brigade Loire et non pas au brouillard très présent depuis ce matin sur la Loire-Atlantique, mais voilà, le temps est correct pour jouer au football. Une sortie de but à l'instant pour les Nantais qui vont essayer de confirmer le rebond qu'ils ont depuis l'arrivée de Jocelyn Gourvennec. Et on n'oublie pas notamment cette victoire ici, il y a 15 jours, face aux Niçois. Christophe, tu l'as pas oublié, toi?
Oh non, que je ne l'ai pas oublié, d'autant que les Niçois en ont repris une belle hier soir. Il est 13h02 sur RMC, on revient dans un instant pour ce match, évidemment, pour la victoire de Justine Brezaz qui va se dessiner d'ici quelques instants. Et puis on va vous parler également de la finale du championnat du monde de hand qui aura lieu ce soir entre la France et la Norvège. À tout de suite sur RMC.
RMC Intégral Sport. Christophe Cessieux.
Allez, on repart tout de suite à Nanzarite. C'est le suspense et c'est le final de cette mass start. Justine Brezaz en tête. Mais attention parce que la Suédoise revient très vite derrière elle, Julien.
Ah oui, Elvira Hubert qui est revenue comme un boulet de canon, mais elle en a gardé sous les spatules. Justine Brezaz-Boucher qui franchit la ligne d'arrivée, les bras levés. Le salut au public ici de Nanzarite pour un incroyable triplé. Sprint poursuit. Mass start, alors ça a déjà été fait évidemment dans le passé, mais très peu de biathlètes l'ont réussi ce triplé, et notamment dans cet ordre-là, Justine Brezaz-Boucher qui va en plus prendre les commandes du classement général de la Coupe du Monde de biathlon, championne olympique, hein, souvenez-vous à Pékin, après une course incroyable, eh bien elle gagne la première mass start de cette saison, la jeune maman Justine Brezaz-Boucher, donc carton plein véritablement ici sur ce week-end à Lanzarote. 6e place pour Julia Simon qui a lâché une balle de trop sur le dernier tir à 43 secondes. Tendrevold est juste devant elle, 5e. Elle va perdre son dossard jaune de leader de la Coupe du Monde de biathlon pour le donner à donc une Française, Justine Brezaz-Boucher.
Magnifique. Et puis Lou Jean Monod qui était malade, elle qui a disputé uniquement cette course, va arriver un petit peu plus loin. Mais
aux alentours de la 14e place.
On a quand même trois biathlètes de très haut niveau désormais en équipe de France.
Et Sophie Chauveau va prendre une place dans le top 10 également, puisqu'elle franchit la ligne à l'instant en 9e position. Elle a fait une superbe mass start, Sophie Chauveau. D'ailleurs, on la voit franchir la ligne d'arrivée en applaudissant et en encourageant le public ici de Lanzarote qui fait beaucoup de bruit.
Très bien, Julien. Ben voilà, une bonne chose de faite pour Justine Brezaz. Triplé incroyable à Lanzarote. Et puis, on attend évidemment les garçons tout à l'heure. Mais là, vu l'état des biathlètes masculins, on peut pas s'attendre vraiment à une victoire tout à l'heure. La course aura lieu un peu plus tard dans l'après-midi, je crois vers 14h45, et on la suivra évidemment avec toi tout à l'heure, Julien. Victoire de Justine Brezaz. Il est 13h07 sur RMC, le biathlon évidemment, mais le foot avec pas un derby, parce qu'on est quand même loin entre Nantes et Brest à Cumberbourg. Je sais que Pierre-Yves connaît la route par cœur, il l'a fait des centaines de fois. Fait combien de kilomètres ça?
C'est 300.
300, bah oui, ça va, voilà, ça se fait vite, toi, quand même.
C'est la route nationale qui est à 110, tu mets le régulateur à 105 et tu mets 3 heures entre Nantes et Brest.
Ouais. D'accord. Mais l'avantage, c'est que tu ne payes pas de péage. Ça, c'est bon.
Exactement.
Pour la... Eh oui, tout ça, la Bretagne. Ça a du bon, la Bretagne. Bretagne. Alors, ça donne quoi ce match, Pierre-Yves?
Eh bien, écoute, pour l'instant, c'est plutôt équilibré. Un joueur est au sol à l'instant pour une petite faute. Monsieur Millot qui vient voir ce qui se passe. Pas trop
c'est Del Castillo qui a pris une petite,
bobo, ouais.
Une petite semelle.
Voilà, Romain Del Castillo, Sirenet qui se relève. Les Nantais qui ont eu une petite opportunité ou deux, mais c'est pas flagrant. Pour l'instant, on est dans ce fameux round d'observation dans ce premier quart d'heure, toujours 0-0 à la 9e minute. Long ballon en profondeur, tout simplement pour rendre cette balle au Brestois. Bizot a hésité à aller la chercher et finalement c'est Loco qui va pouvoir effectuer la touche. C'est le Loco de Brest.
Après, hein, on connaît un peu le style brestois. ça va.
Il y avait un loco à Nantes aussi qui était venu un jour faire un tour au PSG qui a mis une jolie casquette de policier sur la tête, si vous vous rappelez.
Tu te souviens que de ces occasions-là, pas des belles actions, toi.
Ah ouais, loco, Wedek. C'était magique avec Nantes quand même. Et c'était qui le troisième déjà? Loco, Wedek?
Loco, Wedek, Pedros.
Pedros, voilà.
Il y en avait, Endoram, tu peux pas l'enlever, Endoram de cela.
C'est vrai, c'est vrai. Quelle équipe! Ah là là, c'est l'époque où les Canaries faisaient rêver quand même, ça.
C'est l'année l'année où j'arrive au centre de formation. Donc imagine, quand tu arrives à la Genelière,
tu débarques et il y a tout ça, quoi.
Tous les deux week-ends, tu es à la Beaujoire et tu avais le tarif maison 3-0 pour les Canaries. Non, c'est ça, pile. Hein. Impressionnant.
C'est pour ça que tu es devenu fou de ce club, quoi.
Non, j'avais déjà signé avant, donc j'aimais déjà ce club. Mais forcément, quand tu arrives dans ces conditions-là et que tu vois Coco Ciodo à l'entraînement. Entraîneur-entraînant, forcément, ça donne encore plus envie de réussir dans ce club-là.
Mais pas très sympa avec les journalistes, je peux te dire. Moi, j'ai des mauvais souvenirs avec Coco Ciodo. Il t'a envoyé le jeune journaliste, il t'envoyait bouler, mais alors d'une force. Ah, c'était quelque chose.
Fallait parler foot aussi.
Drôle de personnage. Ouais, mais même si tu parlais foot, hein, quand tu t'avais dans le nez, je sais pas. Pierre-Yves, tu l'as connu toi aussi, tu l'as interviewé, Coco.
Oui, bien sûr. Mais je lui posais des bonnes questions.
D'accord, ok.
Phil, juste sur la compo de Nantes, plaisir. C'était pas Coco qui était annoncé dans le 11? Parce que là, je vois Palois et moi,
bien sûr. La feuille de match, c'était Coco, c'était Chaumert, c'était Castelletto et en fait, Palois est présent avec Castelletto sur le côté.
Et Coco sur le banc, du coup, blessé?
Mais oui, il y a eu un petit souci, je pense. Je vais me renseigner parce que j'ai pas eu l'info exactement, mais effectivement, Coco était prévu titulaire normalement.
Ok, messieurs, on vous laisse pas loin, quoi. Vous intervenez s'il se passe quelque chose, quoi.
Hein, vous n'hésitez pas,
bien sûr.
Tiens un but et puis vous nous racontez ce qui se passe. Mais vous savez, le dimanche, aux alentours de 13h10, on ouvre notre page olympique, notre magazine En route pour Paris 2024.
RMC, En route pour Paris 2024.
Et en route, on y est déjà avec l'équipe de France de hand féminin qui, avant de viser la médaille d'or olympique, avant d'espérer se succéder à elle-même dans quelques mois à Paris, entend bien, avant cela, devenir championne du monde cet après-midi, plutôt ce soir, en étant opposée à la Norvège en finale des mondiaux, que l'on va vivre évidemment avec Arnaud Valadon et toute l'équipe ce soir. Arnaud qui sera en compagnie de Camille Aiglon-Serina comme consultante. Il aura Marion Bartoli, il aura Jean-Christophe Dreux autour de lui. Avec ça, si on ne gagne pas, c'est à n'y plus rien comprendre. Salut Arnaud.
Salut Christophe, il manque que toi en fait.
Ah ouais, mais je vais vous écouter religieusement. Arnaud, la finale de rêve évidemment, ce sont deux vieilles habituées qui vont s'affronter, la France et la Norvège, deux équipes qui se connaissent parfaitement et qui s'entraînent même ensemble pendant des stages. C'est quand même incroyable cette histoire.
Oui, il y a eu un stage aux Antilles en 2016 et pas plus tard que cet été dans le nord de la Norvège, là où il fait 20 degrés et c'est considéré comme la canicule là-bas. Il y a des échanges très régulièrement entre les deux sélectionneurs. Faut dire que c'est aussi des sélectionneurs qui sont installés depuis très longtemps, même si Olivier Crombols a eu une césure entre 2013 et 2016, mais il est là depuis 98. Et le sélectionneur norvégien, l'Islandais Tori Rergerson, est là depuis 2009. Donc forcément, on se croise énormément depuis plus de 20 ans pratiquement, et il y a cette forme d'amitié entre les deux nations. Certaines joueuses jouent ensemble en club, c'est le cas des deux capitaines, la star norvégienne Stine Oftedal et la française Estelle Zeminko. Elles s'apprécient beaucoup, mais il y a aussi quelques inimitiés. Pourquoi? Parce que ces dernières années, c'est-à-dire depuis 2020, il y a quand même des Norvégiennes qui ont privé les Françaises à chaque fois de médailles, dont l'or et des titres en 2020 à l'Euro, ici même à Herning au Danemark en plein Covid. Il y a 2 ans en Espagne et une défaite en finale des Bleus, et même l'année dernière elles nous ont battu en demi-finale. Forcément, ce sont des défaites qui ont marqué certaines, parce qu'elles n'étaient pas toutes là en 2017 quand la France a battu pour la dernière fois la Norvège dans un match à élimination directe, ce titre de championne du monde pour les Françaises. Et Chloé Valentini a fait partie de celles qui n'ont jamais battu la Norvège, et elle ne porte pas vraiment les adversaires de ce soir dans son cœur.
Personnellement, j'ai jamais battu la Norvège en finale. J'en ai joué, mais j'ai toujours perdu. Je vais tout faire pour pas encore perdre, parce que y en a marre. Sincèrement, j'ai envie de gagner, j'ai envie d'être championne du monde. Je les respecte par leur jeu, par leur défense, par les joueuses qu'il y a dans cette équipe. Je les aime pas. Elles m'ont fait perdre plein de médailles d'or, donc non, je peux pas dire que je les aime.
C'est un peu comme l'Angleterre qu'on adore battre en rugby, comme l'Espagne qu'on adore battre en hand et qu'on déteste, comme l'Italie qu'on adore battre en foot. C'est qui aime bien, châtie bien.
Hein.
Ouais. On les respecte, mais on les déteste, quoi. C'est un peu ça. Même si on.
Oui, c'est ça.
Bon, alors, tu le disais, la dernière victoire dans un match éliminatoire remonte à 2017, mais il y a eu quand même ce succès. Il faut pas non plus l'oublier lors de la phase de poule il y a quelques jours. La France s'est imposée avec un petit but d'avance face à la Norvège. Est-ce que ça rentre en compte dans l'appréciation, dans la préparation de ce match? On sait que les deux équipes étaient d'ores et déjà qualifiées pour les quarts de finale. Donc, est-ce qu'on peut s'attendre à retrouver le même genre de scénario ce soir?
C'était il y a une semaine tout pile. On n'était pas au Danemark, on était en Norvège. Et c'est vrai que c'est paradoxal dans l'approche de ce match-là. Les deux équipes sont revanchardes. Les Norvégiennes, parce que dimanche dernier, elles ont perdu chez elles dans un match. Certes, les deux équipes ont été qualifiées, tu l'as rappelé. Mais elles ont quand même jeté toutes leurs forces dans la bataille. Parce qu'après, il y avait des enjeux de tableau où le gagnant avait une route vers la finale un peu plus dégagée. Parce que les Norvégiennes ont dû battre vendredi les Danoises à domicile après prolongation. Donc les Norvégiennes, elles sont revanchardes parce qu'elles ont perdu à la maison et qu'elles n'ont pas envie de perdre deux fois de suite en une semaine contre les Françaises. Et les Françaises, elles prennent pas pour acquis le résultat de dimanche dernier. Elles sont elles-mêmes revanchardes. Et tu as entendu Chloé Valentini, l'ailière gauche. On a suffisamment perdu de matchs capitaux les années d'avant que cette fois-ci, on veut pas que ça nous file sous le nez. Donc tu vois, c'est assez rigolo en fait dans cette approche où c'est vraiment deux équipes qui ont envie de prendre une revanche l'une sur l'autre.
Ouais. Très bien, match donc au couteau entre la France et la Norvège. On rappelle que ces deux équipes devraient se retrouver également au sommet dans quelques mois aux Jeux Olympiques. Elles sont vraiment au-dessus du lot, au-dessus des autres adversaires, même si les Norvégiennes ont eu du mal, hein, je crois, à battre les Danoises en demi-finale. Hein.
Alors que nous, on avait des Suédois, c'était plutôt facile. Oui, elles ont eu du mal parce que quelque part, on a senti cette équipe norvégienne désarçonnée par leur défaite contre nous, les Français. C'était un peu compliqué en quart contre les Néerlandaises. Et là, elles ont été dépassées lors de la première mi-temps contre le Danemark. Elles étaient menées 14-9 et elles ont fait un retour incroyable avec une joueuse, Eni Rechtad, vous entendrez parler. Elle a marqué 15 buts. C'est tout simplement colossal. Donc, on a envie de voir ce que ça donne. Et pour le coup, autant avant la compétition, on disait la Norvège. Et pour l'instant, on la considère au-dessus de la France. Là, avant ce match, c'est vraiment du 50-50.
Eh bien, pourvu que la balance tombe du bon côté ce soir pour cette finale des championnats du monde, à partir de 19h, événement sur RMC, Bartoli Time, spéciale finale donc de ces mondiaux, la rencontre en intégralité avec Jean-Christophe Drouet, Marion Bartoli, Arnaud qui sera donc au commentaire, et notre consultante Camille Aiglon-Sorina qui a été championne du monde en 2017.
Et qui les a battus en 2017, elle sait faire.
Ah ben voilà, elle sait faire, elle nous donnera les recettes à suivre à partir de 19h, et puis autrement il y a la télé aussi, mais bon, la télé on sait même plus sur quelle chaîne c'est, tellement c'est compliqué. Merci Arnaud, à tout à l'heure.
À tout à l'heure
pour cette finale à partir de 19h. 13h17, ils sont pas en finale, mais ils ont l'habitude d'aller en finale de Coupe de France. Bon, des années ça a souri, d'autres un peu moins. Les Nantais qui jouent aujourd'hui en championnat face à Brest. Pierre-Yves,
pourquoi rappeler ces souvenirs là
Non, parce que je me fais mal à moi aussi.
Vilain.
Je me fais mal à moi aussi parce que
en disant ça.
Voilà. Là, d'un seul coup, ça te fait marrer, là.
Hein oui, c'est vrai. 18 minutes de jeu, 0-0. Et on a eu une frappe pour les Brestois, mais elle n'était pas cadrée. Donc, on espère que les stats vont s'améliorer rapidement ici à la Beaujoire.
C'est vraiment pas terrible, hein. Pour l'instant.
Non, pas du tout. Ouais.
Et c'est même très surprenant que ce soit Brest qui ait la possession.
Là, avec Mollet, dans la surface de réparation, la frappe croisée qui passe à côté des buts de Bizotte. On voit là une première occasion pour les Nantais, mais ça ne fait pas mouche.
Bon, pas mouche, on verra si les mouches volent un peu plus bas tout à l'heure. À la Beaujoire, 0-0 entre Nantes et Brest, il est 13h18. On continue d'évoquer l'actualité de Paris 2024 dans un instant. On va parler d'escrime avec notre invité, Boris Sanson, qui sera lui aussi membre de la Dream Team l'été prochain. Et puis toutes les infos olympiques avec Léna Marjac à suivre dans quelques instants. À tout de suite.
RMC Intégral Sport.
Christophe Cessieux.
13h21, vous êtes sur RMC, c'est l'Intégral Sport. Comme tous les dimanches après-midi, on parle évidemment des Jeux Olympiques dans un instant. Je vous rappelle l'information de ce début d'après-midi, le triplé de Justine Brezaz-Boucher dans l'épreuve de Coupe du Monde de Lenzerheide en Suisse, après avoir remporté le sprint. La poursuite, elle s'est imposée tout à l'heure dans la Mastart. On essaiera de lui passer un petit coup de fil tout à l'heure. Triplé incroyable donc pour la Française. Et puis on suit également le match de foot qui oppose le FC Nantes à Brest. Ça a commencé il y a 22 minutes. Bon, il ne s'est pas passé grand-chose, il faut bien le dire. Messieurs Leroux Et Piocelle.
Non, mais ça pousse un petit peu là, quand même, du côté nantais. Ouais. Depuis quelques minutes, depuis la précédente intervention, 22 minutes, toujours à 0-0. Mais on sent que les Canaries essayent d'accélérer, notamment avec Moses Simon ou Mohamed. Ils sont encore à l'attaque là, avec Chirivella qui revient d'ailleurs dans cette équipe. Attention au centre de Merlin, toujours dans la surface de réparation. C'est pas très bien joué ça, hein, Seb. Je trouve que la qualité des centres va falloir améliorer.
Ouais, et moi, je fais une fixette depuis tout à l'heure sur Sissoko, que je trouvais bon depuis un petit moment là. Il joue tout en une touche de balle, tout vers l'arrière. J'espère qu'on retrouve pas le Sissoko d'il y a quelques semaines. Ouais.
Je suis d'accord avec toi. Un peu emprunté en plus physiquement là.
Ouais, tout à l'heure il reçoit un ballon dans la surface. Il était tout seul. Il aurait pu se retourner. Il a rejoué à 10 mètres derrière. Ouais. Ah bon, bref. C'est vrai que les Nantais ont un peu plus le ballon, un peu plus haut. Mais encore une fois, c'est plutôt le jeu des Brestois. Hein. En général, les Brestois, ils aiment bien attendre. Et par contre, ça peut aller vite devant là, avec que ce soit le Doiron ou Del Castillo. Donc voilà. Donc, mais je préfère voir les Nantais avec le ballon quand même.
Bah ouais, bon, on espère voir des ballons au fond des filets aussi.
Ouais, au moins des occasions déjà.
Du jeu, au moins des occasions. On espère qu'il y en aura d'ici tout à l'heure. À tout à l'heure, les garçons. Il est 13h23. On continue notre magazine en route pour Paris 2024 avec l'actualité olympique qui se déroulait d'ailleurs hier, Pierre-Yves, du côté de Nantes avec les championnats de France d'escrime. Tu es allé ou non?
Non, j'avais piscine.
Ah non, toi dans la piscine, je te crois pas. Là, c'est un mensonge, il ne sait pas nager. Je peux vous le dire. En tout cas, il y en a un qui y était, c'est Boris Sanson, nouveau membre de la Dream Team RMC et champion olympique. C'était à Pékin en 2008 avec l'équipe de France de sabre, avec ses copains Nicolas Lopez et Julien Pillet. Boris qui sera donc notre consultant, membre de la Dream Team durant les prochains Jeux. Bonjour Boris et bienvenue chez la bande de fous. Hein, dans la bande de fous.
Bonjour à vous, et puis je suis très content de faire partie de l'équipe. C'est une belle expérience à venir.
Eh ben exactement, une belle expérience, et je pense que tu vas te régaler avec Valentin Jamin qui commentera les épreuves avec toi. Ça se passera en plus dans un lieu mythique de la capitale, le Grand Palais, où il y avait déjà eu des championnats du monde il y a quelques temps. Bref, ça s'annonce plutôt pas mal, cette histoire-là. Boris, je le disais, tu es champion olympique, tu as été champion olympique en 2008, et puis il y a eu cette histoire, évidemment, dont tout le monde se souvient en 2004, tu faisais partie de l'équipe, mais tu n'avais pas eu le droit de monter sur la plus haute marche, tu n'avais pas eu la médaille parce que tu étais. Raconte-nous un peu ce qui s'était passé. Tu étais remplaçant de l'équipe.
Ouais, c'est ça. Mais en fait, il y a un règlement qui fait que sur toutes les compétitions, Coupe du Monde, Championnat d'Europe, Championnat du Monde, généralement, on tourne à 4 dans une équipe. Mm-hmm. Au choix de la. Comment dire, soit une blessure, soit tactique. Et effectivement, là, pour les Jeux Olympiques, il y a une accréditation de 3 athlètes. Et l'athlète qui est remplaçant en fait n'a pas l'accréditation pour pouvoir être sur la piste. Donc en fait, ce qui se passe, c'est que quand il y avait un tireur qui sortait pour choix de blessure ou pour choix technique, il ne pouvait plus re-rentrer. Donc en fait, ça posait un petit peu un problème sur la stratégie de mise en place pour le coach et même pour l'équipe lors de ces épreuves-là. Donc en fait, moi, j'étais pas accrédité. Et bon, il s'avère que mon collègue Damien Touya se fait percer la main, un truc qui n'existe jamais, qui n'est jamais arrivé, au mode d'expérience, j'avais vu, à 44 partout contre les Américains. Et en fait, Damien Touya, il y a 10 minutes d'arrêt, Damien Touya se fait consulter par le médecin qui est là, on a droit à 10 minutes. Moi, je suis là pour m'entraîner, pour m'échauffer, pour faire la dernière touche, parce que c'est vrai qu'il y a un peu de pression, mais
bon, voilà. Mais ah oui, on rappelle, c'est en 45, hein, une victoire à Paris.
C'est ça, exactement, 45, 44, 44, ouais, c'est ça. Vraiment, ce qui se passe, c'est que quand on sait qu'on est sur le podium, quand on veut tirer la une ou la deuxième place, on sait qu'on va avoir une médaille. Par contre, la troisième place, ça va être tirée. Ouais. Donc, du coup, on n'est pas sûr. En plus, on rencontrait, il y a les Russes, c'était un peu compliqué. Donc, voilà, il s'avère que je ne suis pas rentré sur la piste. Donc, j'ai pas été champion olympique, j'ai pas été nommé comme champion olympique. Donc, j'étais, moi, membre de l'équipe de France, champion olympique. En 2004. Et puis c'est vrai que c'était une expérience ascenseur émotionnel parce que j'étais hyper content pour les gars, c'était vraiment fantastique pour tout le collectif France et tout, ça montrait la valeur de l'escrime française. Et j'avais pas pu moi en fait avoir cette médaille, ce rêve qu'on a de gamin quand on est sportif et qu'on rêve de cette médaille d'or là quoi. Donc je l'ai pas eu. Puis après pendant 4 ans j'ai fait partie bel et bien de cette équipe de France avec plusieurs médailles en grand championnat, donc toutes les couleurs. Et puis en 2008 on me dit est-ce que c'était une vengeance? Pas du tout, une revanche, pas du tout. Bien au contraire, une nouvelle expérience qui s'est mise en place avec un collectif que je connaissais depuis 4 ans. Et puis, on a eu le plaisir d'être champion olympique à ce moment-là. Donc, c'était une très belle aventure. Où effectivement, j'avais aussi une carrière où j'étais dans les 10 meilleurs mondiaux pendant ces 4 ans-là. Donc, c'était cool, quoi. Un bon.
Voilà. Je vivais de l'histoire, de plaisir. Tout est bien qui finit bien finalement dans cette histoire. Cool. Avec l'ascenseur émotionnel. Alors, Boris, on va parler donc de ta discipline, l'escrime, qui est quand même la discipline qui a rapporté le plus de médailles olympiques à la France depuis l'instauration des Jeux. 123 médailles, hein, c'est mieux que le judo, c'est mieux que le cyclisme, c'est mieux que toutes les autres disciplines. Il y a 3 ans à Tokyo, les escrimeurs et escrimeuses françaises n'avaient pas dérogé à la tradition. Il y a eu 5 médailles, dont 2 en or, celle de l'épéiste Romain Canon et celle de l'équipe masculine de Fleuret. 5 médailles, c'est magnifique. Est-ce qu'on en espère autant à Paris ou mieux? Parce qu'on sait qu'il y a eu quand même pas mal de tensions ces derniers temps dans toutes les armes. Hein, on parlait peut-être de cette crise. Est-ce qu'aujourd'hui, 5 médailles, c'est l'objectif affiché ou on peut espérer plus à Paris, à ton avis?
Alors, il faut comprendre que les Jeux, c'est un moment exceptionnel. Effectivement, toute la fédération essaie de mettre en œuvre le meilleur état possible. Les 5 médailles, c'est déjà une bonne chose. Le projet est que c'est extrêmement compliqué de prévoir sur ce qui va se produire. Il y a eu, par exemple, il y a eu très bons résultats au championnat d'Europe où ils ont cartonné. Au championnat du monde, c'était un petit peu plus compliqué l'année dernière, c'est ceux qui sont arrivés. La saison est longue. Il y a du potentiel. La France peut exploser au niveau des résultats, comme elle peut se sentir complètement inhibée par l'événement. Et on peut ressentir que la pression, il faut bien la gérer pour tout le monde, pour les coachs, pour les tireurs, pour l'environnement aussi. Et d'arriver pour que ces mecs-là, ces tireurs-là soient le plus en phase optimale, quoi. Donc, je pourrais pas prévoir. Je sais qu'il y a vraiment de très bons résultats parce qu'il y a des armes là où ils cartonnent fort. Et il y a d'autres armes où en individuel, pour l'instant, ils n'ont pas encore bien performé. Mais par équipe, là, je donne l'exemple. Il y a le week-end dernier, pas celui-là parce qu'il y avait France, mais le week-end d'avant, il y avait plusieurs Coupes du Monde. À l'épée, il y a eu un podium, il y a eu une victoire, il y a eu une 3e place, un gars a gagné aussi à l'épée masculine au sabre, ils ont fait 2 et 3 au sabre féminin, ils ont fait 1-3-3 au fleuret, moindre performé en individuel mais ils ont gagné la Coupe du monde. Donc voilà, c'est vrai que la France est une nation qui est extrêmement forte. Il y a eu un petit creux de vague et je sais que là c'est revenu. Alors on en parlait tout à l'heure, c'est qu'il y a un petit peu de complexité au niveau des fédérations les athlètes et la préparation des Jeux Olympiques. Chacun va se positionner pour prendre ses responsabilités et que l'entraînement soit le plus performant possible. Donc là, c'est vrai qu'on a pu lire ça dans les journaux. Une année avant les Jeux, l'année avant les Jeux, il faut que ce soit serein. Ça n'a pas été trop le cas, mais je pense que là, j'ai vu pas mal de tireurs hier et les choses se mettent bien en place. Il y a eu communication et puis j'aurais l'impression que tout le monde essaie d'avancer pour obtenir un maximum de médailles, quoi.
Ouais, ça va mieux parce qu'on sait que ça a été très tendu, par exemple, entre les épéistes et Hugo Brie, qu'on connaît bien, qui a été ton prédécesseur dans la Dream Team RMC, qui est un garçon avec une grosse personnalité, qui en demandait peut-être un peu trop à ses athlètes. Mais bon, il faut quand même qu'il y ait de l'entente entre un athlète et son entraîneur pour que ça fonctionne, Boris. Toi, tu avais des bonnes relations avec tes entraîneurs à l'époque?
Moi, j'avais des bonnes relations avec mes entraîneurs. Après, pour certains, j'avais plus de feeling que d'autres, parce qu'en même temps, il faut voir que plus les choses avancent, là surtout c'est des projets individuels et qui doivent s'inscrire dans un collectif. Donc en fait, il faut que l'entraîneur lui puisse comprendre ses athlètes, que les tireurs puissent comprendre l'objectif qu'ils ont à mettre en place. Ce sont pas des jeunes athlètes là qui étaient à l'épée par exemple, les mecs ils ont tourné. Et quand on voit chacun leur palmarès, c'est un bon gros palmarès quoi. Ils ont avec des épreuves en Coupe du Monde gagnées, avec des numéros 1 mondial, etc. Enfin, et ces mecs là. Se connaissent de plus en plus et effectivement Hugues ayant cette forte personnalité qui apparaît qui a eu des résultats exceptionnels, mais il faut qu'il y ait une bonne entente. Donc là j'ai l'impression que les choses se sont mises en place et que chacun va essayer de donner du mieux possible pour que l'objectif soit atteint, quoi, au moins individuel, par équipe après. C'est pas parce qu'on va bien s'entendre, pareil, c'est une chose, c'est pas parce qu'on va bien s'entendre dans une équipe qu'on va gagner ou on va perdre, quoi. Si tout le monde a un projet commun et quelque chose, un objectif en commun et que chacun est optimal, il y a largement la place pour pouvoir gagner la médaille d'or, par exemple, quoi.
Très bien, Boris. On aura l'occasion de reparler un peu plus en profondeur de toutes les espoirs, de tous les espoirs français individuels et par équipe, parce que l'escrime évidemment va monter en puissance tout au long de cette préparation avec les qualifications olympiques qui vont tomber les unes après les autres, et donc ces compétitions qui auront lieu au Grand Palais à partir du mois de juillet. Merci, Boris. On est ravis de t'accueillir dans la grande maison et on va
super.
Se régaler avec
super.
Toi. Merci beaucoup,
super,
Boris.
Merci beaucoup.
À très bientôt. Boris Sanson, donc champion olympique par équipe, c'était au sabre en 2008 à Pékin avec ses copains de l'équipe de France. Un tour des directs et de notre direct, Nantes-Brest, c'est de la Ligue 1 et c'est avec Pierre-Yves Leroux et Sébastien Piocel.
Et c'est toujours 0-0 après 33 minutes à la Beaujoire. Les Nantais qui viennent se créer une nouvelle occasion par Mostafa Mohamed, mais qui n'arrivent pas à trouver la solution. Match plutôt équilibré, des occasions de chaque côté, mais des petites occasions, alors qu'un nouvel hommage est fait par les supporters de la Brigade Loire aux supporters décédés il y a 15 jours dans cette tribune qui est juste derrière Bizotte, le gardien brestois, avec de nouveau fumigène. Coup franc à venir pour les Brestois. Le ballon dans le rond central, le ballon qui va arriver très certainement à proximité de la surface de réparation. À l'entrée de cette surface de réparation, eh bien, il y a Nicolas Palois du côté nantais pour dégager.
Seb,
ouais, c'est assez...
je t'ai vu.
Non, c'est assez équilibré. Je trouve qu'il y a beaucoup de déchets techniques.
C'est pas loin de la sieste, hein.
Il y a beaucoup de déchets techniques et ça manque un peu de vitesse dans les constructions. Là, il y a.
Voilà, de vitesse avec Mohamed au deuxième poteau et c'est passé devant Sissoko.
Il doit la sentir, Sissoko.
La capacité d'accélération de Sissoko, c'est pas.
Non,
c'est
mais même, ouais, quand même, sur 5 mètres, il peut le faire. Mais on a des Nantais un peu mieux quand même. On a dénanté un peu mieux, il cadrait bien au milieu de terrain, donc c'est juste que des fois ça dans les relances, on l'a vu à l'image de Comerte ou Castelletto, ça relance un petit peu dans l'axe pour faire attention. Mais ouais, c'est assez équilibré. Mais voilà, quand on a ce type d'opportunités, alors c'est pas une occasion nette, voilà, il faut être un peu plus tranchant dans la surface.
Ok, 0-0, 34 minutes de jeu à la Beaujoire entre Nantes et Brest. 13h34, on revient dans un instant, la suite de notre magazine olympique. C'est tout de suite sur RMC.
RMC, Intégral Sport,
Christophe Cessieux.
13h37, en direct de la canicule dans le studio ici d'RMC. 55 degrés à l'ombre, c'est magnifique pour faire de la radio, c'est magnifique. Il fait un peu plus frais à Nantes, à la Beaujoire, mon cher Pierre-Yves. Il a mis ses grosses...
toujours eu des problèmes de chauffage, de toute façon. C'est trop froid.
Qu'est-ce que tu veux? Bon, toi, t'as l'air d'avoir...
T'as
mis ton petit bonnet quand même, parce que là, il faut protéger un peu la tête.
J'ai la casquette. C'est un peu humide. L'ambiance est un petit peu humide, 3-4 degrés à la Beaujoire. Et on se réchauffe pas vraiment avec le spectacle, il faut bien le dire. 0-0, alors qu'on est à la 38e minute de jeu. On n'a pas eu de quoi s'enflammer au niveau des actions. Match équilibré, comme on le disait tout à l'heure. Des Nantais un petit peu mieux après un quart d'heure apathique des deux côtés, hein, d'ailleurs. Mais là, ce sont les Brestois qui sont à l'attaque. Côté droit, un ballon en retrait. Et ça va permettre une frappe. C'est contré, justement, par Mounier. Nouvelle opportunité pour les Brestois. Oh là là, ça tremble, là, dans la surface de réparation nantaise. Et finalement, les Canaris qui arrivent à se dégager. Mais c'était pas très, très franc au niveau de la défense nantaise. 39e minute, toujours 0-0 à la Beaujoire.
Ok, Sam, t'as des choses à ajouter, non?
Pas grand-chose, ouais, non. Ça se ressemble un peu, les opportunités des deux côtés. Là, encore une fois, là c'est le petit moment brestois. Tout à l'heure, c'était le petit moment nantais. Donc, voilà, ça se rapproche un peu quand même. On espère voir des buts. Enfin, moi, plutôt pour les Nantais, mais bon.
Ouais.
Même si j'aime bien Greg Lorenzi, le directeur sportif de Brest, qui passe par
Nantes. Bien l'entraîneur niçois, Eric.
Ouais, Eric aussi, c'est
au lycée ensemble.
Vous voulez une petite anecdote?
C'est
la première fois qu'Eric Roy et Jocelyn Gourvennec, qui sont à 10 mètres l'un de l'autre, se retrouvent face à face comme coach. Et ils ont vécu une frustration commune. La frustration s'était terminée sur cette pelouse de la Beaujoire en 1999, car tous les deux à l'époque jouaient à Marseille et ils avaient raté le titre.
Ouais, je jouais ce match, moi, avec Nantes.
Ah bah tu vois,
je jouais ce match,
participé à la frustration de Jocelyn.
Pendant que Bordeaux battait le Paris Saint-Germain, on avait perdu 1-0 et nous on venait juste d'être vainqueur de la Coupe de France quelques jours avant, quelques semaines avant.
Ouais. et Marseille ratait le titre d'un point.
Ouais, dommage.
Très bien, messieurs, on vous retrouve dans quelques instants. On va aller prendre un grand bol d'air frais. Ça va nous faire du bien parce qu'avec la température ici, on va aller sur les tremplins de Coupe du Monde de saut à ski avec la nouvelle petite merveille de la discipline. C'est une Française. Elle se nomme Joséphine Panier. Elle a remporté hier sa deuxième épreuve de Coupe du Monde qui vient 15 jours après son premier succès en Coupe du Monde. Et ce matin, je crois qu'elle a terminé quatrième. Elle est là, bien en place. Bonjour Joséphine et merci d'être avec nous.
Bonjour, merci à vous.
Bon Joséphine, on a appris comme ça à découvrir ton nom pour les gens qui ne suivent pas l'actualité du saut à ski au quotidien. Moi j'ai été surpris, il y a 15 jours, paf, une Française, vainqueur d'une épreuve de Coupe du Monde, paf, 15 jours plus tard, elle gagne encore, elle est là, c'est la patronne, c'est la tôlière. On ne l'avait pas vu venir, toi j'imagine un peu plus quand même, ça fait des années que tu es sur le coup. Mais là, à 21 ans, c'est presque la consécration qui arrive.
Ouais, c'est clair que moi non plus pour le coup je l'avais pas vu venir dès cette saison. C'est vrai que ça fait quand même beaucoup d'années d'entraînement et ça fait plaisir de voir que ça paye.
Bah oui, ça paye bien, deux victoires en Coupe du Monde, une deuxième place, une quatrième place. Alors tu es originaire de Chauneuf, je crois que ton papa s'occupe des tremplins à Chauneuf. Donc, en fait t'es né déjà au pied des tremplins et souvent en haut quand on est petite on a envie d'aller rapidement voir ce qui se passe là-haut, non?
Ouais, c'est exactement ça. Je suis née en face des tremplins et c'était vraiment naturellement que j'ai tout de suite voulu essayer ce sport et il m'a vraiment tout de suite plu.
Raconte-nous un peu les tremplins, les grands tremplins, ça fait combien de mètres de haut et tu voles pendant combien de temps et à partir de quel âge on a le droit de s'essayer à l'exercice?
Alors déjà on peut commencer un peu, il faut avoir un niveau en ski alpin qui nous permet de tenir sur des skis.
Ouais.
Donc je dirais même vers 5-6 ans on peut commencer. Et après en fait ce qui est vraiment cool dans notre sport c'est que les tremplins ils sont vraiment tous différents. Du coup ce qui fait qu'il y a des tremplins on va passer plus haut, des tremplins moins haut. Il y en a qui on va pouvoir faire 140 mètres, il y en a 90 mètres. Et même entre les gros tremplins par exemple de 140 mètres la courbe de vol ne sera pas la même. Et la prise d'élan non plus. Enfin, en fait, chaque tremplin a sa spécialité, enfin sa singularité plutôt. Et donc, c'est vraiment cool.
Ouais, j'imagine. Donc, tu planes comme ça dans l'air à la rencontre des oiseaux et autres satellites pendant combien de temps lorsque tu fais un saut sur un grand tremplin, par exemple? Raconte-nous un peu les sensations qu'on a dans ce genre d'exercice qui est tout simplement incroyable. Quand on vous voit voler comme ça, c'est dingue. On a tous la trouille, le ventre noué quand on vous voit s'élancer avec cette grande piste d'élan, ce saut après derrière. C'est impressionnant quand même. Hein.
Ouais, c'est clair. Moi, pour ma part, c'est un des endroits où je me sens vraiment le mieux au monde quand je suis en l'air. Donc, c'est vrai que c'est beaucoup de. On a l'impression en fait de maîtriser ce qu'on fait et de voler, d'avoir vraiment la sensation d'adrénaline, d'accélération en l'air. Et moi, c'est ce qui me plaît beaucoup.
Ouais. Tu voles. Ton vol plané, il dure combien de temps sur les grands tremplins, par exemple?
Ça dépend. Sur les grands tremplins, je dirais qu'il dure 4-5 secondes max.
Ouais. Ouais, c'est déjà beaucoup, 4-5 secondes à voler. Quand même, il y a peu de gens qui ont l'occasion de voler aussi longtemps, à part avec des artifices. Mais toi, il n'y a pas d'artifice, il y a juste tes skis au pied. Alors, raconte-nous aussi, parce que les skis de sauteurs ou de sauteuses à ski ne sont pas des skis qu'on rencontre, par exemple, dans les slaloms. Ils sont très longs, ils sont très lourds. Combien ça pèse et combien ça fait de longueur?
Du coup, en fait, la longueur, c'est déterminé par... c'est individuel, c'est-à-dire que ça dépend de notre taille et de notre poids. Et donc, à partir de ça, il y a une grille qui est effectuée par la réglementation. Et donc, par exemple, moi, les miens, ils font 2m30. Et si c'est des 2m30, ils vont faire 2,3 kg. Ils sont proportionnels, le poids est proportionnel à la taille.
D'accord.
Donc ouais, ça fait quand même des beaux bébés.
Ouais, c'est des beaux bébés, ils sont presque plus lourds que toi, quoi. T'es toute fine, toi, j'imagine, parce que là aussi, ça fait partie du métier. Il faut vraiment être fit pour faire du saut à ski. Ça avait occasionné d'ailleurs dans le temps des problèmes pour certains sauteurs qui ne s'alimentaient pas vraiment. Est-ce que c'est toujours aujourd'hui un problème dans le monde du saut à ski ou c'est quelque chose qui a désormais été réglé comme souci?
Je pense que ce sujet-là, ça concerne un peu tous les sports à l'heure actuelle, à mon avis, parce qu'on essaie d'être meilleur sur tous les sujets. Après, on est un sport où il faut être léger, mais à la fois, il faut être hyper lucide quand ça compte au bon moment. Donc, faut quand même vraiment avoir de l'énergie cérébrale et être connecté pour qu'au bon moment, on puisse faire la bonne action et piloter le tout à l'instinct. Donc, je dirais qu'on a quand même de moins en moins de problèmes comme ça, nous, dans notre sport, que ce soit chez les filles ou chez les garçons. Il y a toujours quelques cas, mais moi, je trouve que c'est quand même bien moins que par le passé.
Ouais, évidemment. Le saut à ski en France, on a appris à découvrir ça avec Nicolas Dessume, avec Colline Mattel, hein, qui avait été la seule française à remporter des épreuves de Coupe du Monde, même une médaille olympique, me semble-t-il. C'était il y a quelques années, parce que la discipline n'est rentrée dans les Jeux Olympiques que récemment. Joséphine, participer aux Jeux, c'est ton objectif, le prochain objectif, même s'il n'y aura pas de Jeux tout de suite pour toi. En 2030, les Jeux en France, t'auras quel âge? Tu ne seras pas si vieille.
Non, j'aurais 28 ans, mais j'ai participé déjà à ceux de Pékin.
Et oui, en plus. Alors, tu avais fait quoi comme résultat à Pékin?
J'ai fait 11e.
Ah bah c'est pas mal. Bah oui, là, mais là on sent la progression.
C'était vraiment un chouette résultat déjà. Ouais, c'est clair. Bah, c'était déjà vraiment un beau résultat. Et après, bah, je savais que j'avais les capacités d'aller plus loin, donc c'est pour ça qu'on s'est entraîné dur encore.
Eh ben, je vois ça. Et le résultat, eh ben, on l'a vu, on le voit depuis le début de la saison. Deux victoires en Coupe du Monde, une deuxième place, une quatrième aujourd'hui. Les prochains rendez-vous pour toi, ça, on sait que la période des fêtes est toujours une période importante pour les sauteurs à ski. Il y a les quatre tremplins, je crois, c'est chez les garçons et chez les filles aussi. Comment ça se passe?
Exactement, cette année, nous, les filles, on a pas quatre tremplins, on en a que deux. Uh-huh. Deux en Allemagne. Mais non, ça va être chouette et je pense qu'il y a moyen de bien s'amuser encore là-bas.
Eh ben, amuse-toi bien et surtout, gagne plein de médailles. Merci Joséphine, on te souhaite une bonne saison et elle est bien entamée cette saison. Tu es leader de la Coupe du Monde ou pas encore?
Oui, ouais, j'ai gardé le maillot jaune du coup sur ce week-end.
Eh ben, c'est parfait. Bravo Joséphine et bon vol.
Eh ben merci beaucoup.
À très bientôt. Joséphine Panier, donc leader de la Coupe du Monde de saut à ski, elle est française. Apprenez ce nom. Il reviendra sans doute régulièrement d'ici peu dans l'actualité des sports d'hiver. 13h46. Un petit point au foot. Ça, c'est déjà la mi-temps. C'est fou comme elle est passée.
Quand
vite,
ça joue bien.
Ça joue. C'est tellement beau.
Oui. Je vais quand même aller m'asseoir sur le chauffage là pendant la pause, si vous me permettez. Bah, tout le monde est parti, hein. Il n'y a plus personne, il n'y a pas eu d'arrêt de jeu, 0-0 et puis trois petits tirs, voilà, pas d'occasion vraiment très intéressante par-ci, par-là, d'un côté ni de l'autre. Mais ça va être un festival en deuxième mi-temps.
Bon, eh ben, j'espère pour vous les gars. Hein.
On espère parce que ça a été quand même assez moyen.
Le match du dimanche 13h, c'est pas toujours une régalade, mais là, au niveau de la purge, on est quand même bien installé. Hein.
Ouais, c'est pas mal. Ouais, y a pas grand chose à se mettre sous la dent. Un peu d'espace laissé par les équipes. Voilà, après deux équipes organisées, je dis pas qu'on a besoin de se rassurer, mais en tout cas pour les Nantais. Mais à mon avis, l'équipe qui va ouvrir le score, s'il y en a une, le score devrait se terminer à 1-0, je pense. Ouais.
Très bien, à tout à l'heure les garçons, on repart au frais, on va du côté d'Altabadia en Italie pour la deuxième manche du slalom géant de Coupe du Monde avec Arnaud Souk qui lui est à Val d'Isère, mais il voit ce qui se passe à Altabadia parce qu'il est très fort, il a des yeux partout dans les Alpes, notre Arnaud Souk national. Salut Arnaud.
Salut Christophe, salut à toutes et à tous, et je suis avec Sébastien Amier qui est un papa Bastou, heureux évidemment. Parce qu'on a des yeux vraiment partout. Sache que le fils de Sébastien Amier, notre vice-champion olympique de slalom de Salt Lake City, Steven Amier, a gagné aujourd'hui à Val di Fassa une épreuve de Coupe d'Europe, un slalom de Coupe d'Europe. Donc c'est un papa heureux qui est à mes côtés. Salut mon Bastoun.
Salut à tous, salut Christophe.
Pour ceux qui ne connaissent pas exactement, Bastoun, raconte-nous la Coupe d'Europe. C'est pas comme les championnats d'Europe d'un côté et le championnat du monde. La Coupe d'Europe, c'est la pas la deuxième division, mais en quelque sorte, oui, de l'élite du ski.
C'est la deuxième division, voilà, c'est le niveau en dessous de la Coupe du Monde. Donc il y a trois niveaux, la Coupe du Monde, la Coupe d'Europe et les FIS. Donc des courses internationales. Aujourd'hui, il y avait une très grosse participation, hein, puisqu'il y avait Clément Noël qui était là, qui fait quatrième d'ailleurs, et puis une dizaine du top 10 mondial. Voilà.
Donc il bat le champion olympique, quoi. C'est pareil.
Ouais, il a gagné la première manche et puis il a su gérer la deuxième manche aussi. Hein, des conditions pas faciles, mais en tout cas Il s'imposait avec la manière devant Linus Strasser, Clément Noël. Il y avait Tanguy Neff. Voilà, tous les grands noms de certains slalomeurs qui sont sur la Coupe du Monde en ce moment. Donc, c'est bon augure pour Madonna.
On rappelle que la semaine dernière, ils n'avaient pas pu s'exprimer, tous les slalomeurs, puisque le slalom de Val d'Isère avait été annulé pour cause de pluie et de météo capricieuse.
Donc, ils enchaînent sur une Coupe d'Europe après-demain. Et le slalom de Madonna di Campiglio, le 22 en nocturne. Donc voilà, ça donne de la confiance. Et maintenant, il faut passer le cut en Coupe du Monde pour faire le ski qu'il sait faire et puis jouer avec les meilleurs. Pour grappiller des points dans les 30 premiers en Coupe du Monde, pour pouvoir s'exprimer pleinement après.
Parfait. Et ben voilà.
Et
pour ce qui est
de notre Coupe du Monde, puisqu'on en parlait, mon cher Christophe, quand même, pour te dire qu'un Français est actuellement en tête.
C'est
Thibaut Favreau, l'Alsacien qui est en tête, Alsacien comme Clément Noël d'ailleurs, devant Alex Vinatzer et Alexander Omot Kildo. Belle performance pour l'instant de Léo Angno, sixième provisoire. Et puis on attend les meilleurs. Je te rappelle que en première manche, c'est Marco Odermatt, le Suisse, qui a réalisé le meilleur temps. Et Alexis Pinturo, même s'il était à une seconde et demie, bien finalement, il est dans le coup puisqu'il est cinquième et on ne sait jamais ce qui peut se passer. S'il fait une deuxième manche à la hauteur de celle qu'il a fait la semaine dernière à Val d'Isère sur le slalom géant, ça pourrait pourquoi pas se rapprocher du podium. On va voir ça dans quelques minutes.
Eh ben, on suivra avec vous le passage de nos Français dans quelques instants dans ce magnifique slalom géant d'Altabadia aujourd'hui. Bon, c'est pas grand soleil, c'est un peu jour blanc, mais.
Il n'y a jamais grand soleil à Altabadia. Ouais, c'est la Grande Rissa est une piste très capricieuse qui est toujours à l'ombre. Et d'ailleurs, il fait toujours très très froid. C'est un bonheur d'attendre les skieurs en bas de la Grande
Rissa. Si, là, il y a le soleil encore un petit peu sur le bas du tracé, mais dans quelques minutes pour les derniers, ce sera vraiment le trou noir de 14h. C'est vrai que c'est une piste très difficile pour ça. On ne voit pas où on met les pieds et elle est très exigeante.
Voilà, la joie des courses disputées en décembre aux alentours de 14h à l'approche de la nuit. On ne serait pas mieux au mois de mars, au mois d'avril pour faire des courses de ski? Mais bon, ça, j'ai pas l'impression.
Allez, relance pas le débat.
Si, ce serait mieux, mais après, c'est toujours le même problème en avril, c'est d'avoir les bonnes conditions de neige.
On peut skier dans la soupe, c'est bon ça. Là, arrêtez un peu.
C'est ce qu'on faisait à mon époque.
Ben oui, je me rappelle.
Mais aujourd'hui,
ta médaille d'argent à Salt Lake, la piste, elle était pas, c'était pas carton quand même.
Ah non, mais tu sais, nous, on avait ce talent-là, c'est de skier dans les pistes abîmées. Mais
alors, maintenant, faut un billard.
Maintenant, faut que ça soit lisse, faut pas qu'il y ait de brouillard, faut pas qu'il neige. Non, je rigole quand je dis ça parce que c'est vrai que le sport a évolué, mais on est un facteur extérieur et oui, la bonne question, pourquoi pas repousser un peu plus tard, fin mars, puisque la saison de Coupe du Monde se finit souvent aux alentours du 15 mars. Pourquoi pas pousser un petit peu, mais on sait que la neige est là en décembre et il faut en profiter aussi.
Ouais, elle n'est pas toujours là, mais là effectivement cette année il y en a. À tout à l'heure Bastoun et Arnaud pour la suite de ce slalom géant d'Altabadia. Il est 13h52 sur RMC. On va faire une petite pause. Il y a Léna Marja qui attend son tour. Elle a pris son ticket pour 13h15. Elle aura un passage, c'est comme à la sécurité sociale, vers 14h20 14h30. Alors plein de choses à nous dire. Et puis on va évidemment vivre la deuxième mi-temps de ce match palpitant entre Nantes et Brest. À tout de suite sur RMC.
RMC Intégral Sport.
Christophe Cessieux.
Il est 14h02 et vous êtes sur RMC. Ça tombe bien. On est ensemble tout l'après-midi évidemment pour vivre ces événements sportifs, ces directs qui s'enchaînent. Et ça a débuté avec du ski, du biathlon et du foot cet après-midi. Je vous rappelle la victoire de Justine Brezza tout à l'heure en biathlon dans l'épreuve de la Mass Start. Je vous rappelle également qu'on va suivre dans un instant le passage d'Alexis Pinturo qui vise pourquoi pas un podium dans le géant d'Altabadia. Et puis on suit ce beau match de foot qui oppose le FC Nantes à Brest. Le début de la deuxième mi-temps a été sifflé il y a un peu plus d'une minute trente, Pierre-Yves.
Exactement, toujours 0-0 entre Nantais et Brestois. Pas de changement, mais la petite information, Sébastien, on se demandait tout à l'heure pourquoi sur la feuille de match on avait Coco et que finalement il n'était pas là et que c'est pas loin en défense centrale. En fait, il y a quelques blessés, semble-t-il, dans le groupe Nantais, notamment Coco. Ça s'est déclenché juste avant le match puisqu'il était sur la feuille de match. Donc on va surveiller aussi les changements qui vont intervenir d'ici peu avec les Nantais qui sont partis s'échauffer. Le match est arrêté. Sissoko est au sol, toujours 0-0, 47e.
Oui, il va être malade, Sissoko aussi.
Il est malade aussi?
Non, il est pas, non, mais c'est vrai, il n'est pas dans son. Depuis quelques matchs, il était mieux. Là, je le sens pas. Il est souvent au sol, pas dans le bon tempo. Donc, je ne serais pas. Surpris qu'il sorte. Ouais.
Tu sens qu'il est malade. Tu sens là qu'il a.
Non, mais avec les informations de Pierre-Yves.
Il a les yeux fiévreux, un peu, je trouve, moi. Vous avez raison.
Bonjour chers auditeurs, vous avez été sages cette année ?
Vous le savez, c'est bientôt Noël. Comment ne pas s'en rendre compte? C'est bientôt Noël. Et sur RMC, eh bien, nous allons ouvrir le coffre tout au long du mois de décembre. On a ouvert plein de coffres. Tout à l'heure, on a fait plein de cadeaux dans les grandes gueules du sport à une dame qui est repartie avec de quoi faire des cadeaux à toute sa famille, une grande famille. Dans chaque émission, chaque jour, nous vous couvrons de cadeaux cette semaine. Si vous êtes sélectionné, vous repartez avec votre MacBook Air, s'il vous plaît. Si vous osez ouvrir le coffre RMC, vous pourrez repartir avec d'autres choses, hein. Soit la Total High-Tech avec un iPhone 15, une Apple Watch SE, une enceinte connectée Bose Soundlink, une coque pour l'iPhone 15 et un coussin de siège chauffant, pardon, et massant. Ça, c'est si vous gagnez. Si vous perdez, vous repartez avec des AirPods. Dès maintenant, vous envoyez le mot Noël au 732-16. Noël au 732-16. Voilà. Vous êtes prêts à gagner, vous?
Oui, c'est fait, moi.
C'est fait, t'as gagné déjà? T'as gagné
non,
quoi,
non.
Toi?
Rien.
T'as envoyé le 732-16?
Non, c'est ma mère qui envoie.
C'est ta mère qui envoie. Ouais. Pierre-Yves, il l'a envoyé. Ça fait 100 fois qu'on lui dit qu'on peut pas jouer quand on fait parler de RMC.
Mais hein? Je veux le coussin, moi.
Tu veux le... Moi aussi, je veux le coussin. Je veux le coussin chauffant. Surtout pour aller à la Beaujoire, c'est pas mal. Très bien, voilà pour le jeu. Je sais plus où je vais.
Oh, l'ouverture du score voilà. Pour les Brestois, bien la voilà. La voilà, magnifique frappe brestoise, l'ouverture du score. Alors qu'on se disait, on commence à s'ennuyer. Eh bien, Magnetti est là à 22 mètres. Frappe pure qui trompe Alban Lafont à l'entrée de cette surface de réparation et surtout à l'ouverture de cette deuxième période, les Brestois qui prennent l'avantage à la Beaujoire 1-0.
Eh ben voilà, Seb, ça va? Seb, il fait la gueule. Là c'est
un coup de... Non, mais je suis en train de revoir le ralenti et quand je vois la facilité pour jouer le ballon sur le côté. Et après la frappe, elle est magnifique, elle est pure, compliquée pour Alban Lafont, mais c'est surtout
le
1 contre 3 ou 4 là, du Brestois qui va décaler à droite. C'est trop facile, on lui donne trop de temps pour faire ce qu'il veut. Après la frappe de Magnetti, elle est belle, j'espère que ça va réveiller les Nantais. J'avais dit tout à l'heure que celui qui allait marquer en premier allait certainement gagner le match. J'espère, comme je suis pas très bon en Paris en général.
C'est tôt, il reste beaucoup de temps. Effectivement, ça a peut-être un petit peu déclenché ce match qui a eu beaucoup de mal à débuter, mais ça y est, c'est ouvert en tout cas. 1-0 pour les Brestois.
Eh ben voilà, au moment où on s'y attendait le moins, paf, Pierre-Yves est arrivé, il a sorti sa hotte du Père Noël et il nous a offert un but brestois. 14h06, Arnaud Valadon lui aussi va venir avec sa hotte du Père Noël ce soir. On espère un titre mondial pour l'équipe de France de hand féminin qui affronte la Norvège. L'ambiance monte petit à petit dans toute la Scandinavie. Il y avait quand même 3 équipes scandinaves en demi-finale. Arnaud, c'est un peu la région du hand, hein, féminin dans le monde, et pas que féminin d'ailleurs. Hein.
Totalement, Christophe, et bienvenue à la Giske Banks Boxen Arena Derning. On est en plein milieu du Danemark, il n'y a pas grand chose autour si ce n'est une salle de 15 000 places qui arrose vraiment les environs, et ce qui fait que c'est le grand lieu du handball ici. On se souvient, et peut-être que tu t'en souviens, en 2014 d'une victoire magistrale des hommes face au Danemark, où on leur avait collé 40 buts, plus de 10 buts, ça avait été incroyable. Et ici c'est vraiment le pays du hand, tout comme la Norvège, des audiences incroyables, et surtout la salle de 15 000 places. Ils la remplissent, surtout pour les Danois. On espère pour le match et la finale tout à l'heure à 19h Norvège-France. Mais ici, on adore le handball. Ça fait plus de la moitié du pays regarde généralement le match des équipes masculines et féminines.
Ouais. Bon, il faut dire que là, au Danemark, au mois de décembre, il fait nuit et quoi? Vers 13h, il commence à faire nuit? À faire nuit.
Alors, c'est moins pire que la Norvège, où il faisait jour à 10h, notamment à Trondheim, et nuit à 15h. Ici, on est sur un 9h15, 16h.
Ah,
mais du gris partout. C'est vrai que c'est pas la région la plus gaie au mois de décembre. Mais bon, le handball, a globalement, tous les deux ans, que ça soit équipe de France masculine ou féminine, eh bien, c'est forcément earning parce que on organise énormément de compétitions. C'est souvent d'ailleurs au Danemark que ça se termine. Hein. Il y a 3 ans, l'Euro, c'était également ici. Il n'y avait pas de public. C'était avec le Covid. Et c'était déjà une finale France-Norvège que les Françaises avaient perdu.
Très bien. Rappelle qu'à partir de 19h, émission spéciale sur RMC dans Bartoli Time qui ouvre son antenne au direct. Et à cette finale, il y aura Marion, il y aura Jean-Christophe Drouet. Tu seras également là aux commentaires avec notre nouvelle consultante, Arnaud. Rappelle-moi son nom, Camille Aiglon
Sorina, une historique championne du monde 2017, championne d'Europe 2018 en France. Elle n'a pas de titre olympique, elle a quand même une médaille d'argent à Rio qui était l'un des visages. Une des joueuses les plus sélectionnées par Olivier Crumbles, une capitaine de défense, notamment sur sa fin de carrière en équipe de France.
On va pas passer à côté du trottoir où il y a un billet de 50 € qui traîne. C'est une vanne corse. Bien sûr que si ça s'ouvre pour nous, on fera tout ce qu'on peut pour aller chercher le titre. On va s'y préparer. Donc peut-être des choses un peu différentes et un peu plus d'audace que ce qu'on a fait quand on les a battus il y a à peu près une semaine.
Ça, c'est pas Camille Aiglon, c'est Olivier Crumbold.
Non, ça, c'était Olivier Crumbold, ça, j'ai reconnu.
Voilà, le sélectionneur qui a toujours le sens de la formule historique.
Bien sûr. Très bien, merci Arnaud, à tout à l'heure. 19h pour cette finale. Alors, j'ai pas entendu ce qu'on me disait dans l'oreillette. Le foot, voilà. Nantes-Brest, voilà. Ça au moins c'est sûr, c'est une valeur sûre. Avec l'ouverture du score, donc brestoise tout à l'heure, Brest qui mène à 0 à la Beaujoire face à Nantes. Est-ce qu'il y a eu une réaction, Pierre-Yves, des Canaries?
Non, on est retombé un peu dans ce qu'on a vu depuis le début. Enfin,
la belle frappe quand même de Merlin.
Il y a eu une belle frappe de Merlin. Excuse-moi, je l'avais oublié déjà.
Non, mais c'est surtout qu'avant qu'il y ait le but, j'allais dire que par rapport à ce que nous proposait l'an dernier Quentin Merlin, on le voyait quasiment pas déborder ou monter. Et c'est vrai que là, pour le coup, là sur l'action juste avant, il y a deux minutes, là, il met une belle frappe pas très loin du but.
Avec Moses Simon, Moses Simon travaille beaucoup sur ce côté-là et lui peut-être est un peu plus en retrait, mais là il est rentré dans cette surface de réparation. Alors malheureusement pour lui, il se retrouve dans un angle qui est très très fermé et sa frappe est un petit peu trop croisée, donc passe à côté des buts gardés par Bissot. Mais c'est vrai que j'ai pensé à un moment qu'elle serait cadrée et qu'on allait avoir l'égalisation nantaise. C'est vrai, c'est une belle occasion et on va revoir aussi dans quelques instants un joueur qu'on n'a pas vu depuis très longtemps. C'est Fabien Santons qui va faire son retour dans le collectif nantais, un premier changement pour cette équipe des Canaries qui est menée après 55 minutes 1-0 par Brest grâce à Magnetti.
Merci, à tout à l'heure messieurs. On part faire un petit tour en Suisse à Lenzerheide, retrouver la reine. Il n'y a pas de reine normalement en Suisse, mais si, nous on en a trouvé une. Elle se nomme Justine Brezaz-Boucher et elle a réalisé un carton plein ce week-end, triplé pour notre biathlète vainqueur du sprint, de la poursuite, de la Mastart, des relais, et qui va continuer tout au long de la semaine. Non, ça s'arrête là. Bonjour Justine.
Bonjour à vous.
Bon, et 3 victoires en 3 jours, est-ce que ça t'était déjà arrivé à ce niveau de compétition, sans Coupe du Monde?
Non, clairement jamais arrivé. Déjà le doublé sur le sprint, la poursuite, c'était une première pour moi. Et la Mastart aujourd'hui, ça fait, je pense que là, ça fait un bon week-end.
Tu m'étonnes. On doit être cuite, non? Après une telle débauche d'énergie, quand même, aller chercher les 3 victoires. Il y a non seulement le côté physique, mais en plus, il y a tout le mental. Là, dans ta course, on l'a vécu tout à l'heure avec Julien, il y avait cette Suédoise qui te reprenait du temps en fin de course. Tout ça, évidemment, c'est des émotions qu'il faut apprendre à gérer et ça fatigue, hein.
Oui, bien sûr. Alors, c'est clair que sur le plan physique, au bout de 4 semaines de compétition en Coupe du Monde, ça devient difficile. Et on fait avec les ressources qu'on a. C'est difficile pour toutes les biathlètes, je pense. Mais pour moi, aujourd'hui, j'avais conscience que ça allait être difficile sur la piste. Donc, c'est pour ça que je me suis interdit d'aller faire, de rajouter des mètres supplémentaires en ski et d'aller faire des tours d'un autre pénalité. C'était plus facile de mon côté sur le pâtir. Vraiment, j'ai réussi à trouver le calme et la sérénité dont j'ai besoin pour faire des tirs avec intensité en compétition, les tirs que j'aime. Et aujourd'hui, c'était carton plein, il fallait ça. Donc, je suis vraiment heureuse de la finalité.
Bon, Julien Richard nous a rejoint. Julien, on nous a changé Justine Brezaz. Hein. Depuis qu'elle est maman, mais alors c'est Lucky Luke, elle rate plus aucune cible, elle va à fond les ballons. Il y a plus de doute dans la tête. Franchement, ça lui fait du bien d'être maman. Hein.
Mais justement, Justine, on avait vu pour Marie Dorin.
Julien, je t'interromps juste un instant. Le deuxième but pour les Brestois, coup sur coup, les Bretons qui prennent l'avantage sur les Canaries. Ici encore, cette défense attentiste des Nantais. Steve Mounier qui pose sans problème le ballon au fond des filets. Ça fait 2-0 pour Brest face à Nantes et on rejoue seulement depuis 11 minutes en deuxième période.
Merci Pierre-Yves. Julien.
Oui, on se pose souvent la question de la maternité chez les sportifs de haut niveau. On l'a vu dans le biathlon avec Marie Dorin, avec Anaïs Chevalier. Et vous, Justine, c'est quelque chose qui se passe très bien et même qui est très bénéfique, on a le sentiment, dans une carrière pour vous.
Je pense effectivement, en tout cas c'est mon ressenti, c'est ce que j'ai pu vivre, que la grossesse, être aussi loin finalement de la compétition pendant plusieurs mois, plus d'une année, et ensuite la parentalité, oui, ça, en tout cas moi, je ne sais pas si ça m'a changé, mais ça a affirmé certains de mes traits de personnalité, et je suis certainement plus... ouais, ça apporte beaucoup de choses et de notamment pas mal de détachement par rapport à la compétition. Les choix sont aussi, mes choix sont plus affirmés. Et aussi, voilà, j'ai fait le choix de redevenir biathlète à haut niveau. Et à un moment donné, je pense que dans ma relation avec la compétition, oui, elle a évolué vers le bien. Et c'est certainement ce qui m'apporte aujourd'hui. Voilà, c'est ce que j'ai expérimenté sur le week-end particulièrement, mais beaucoup de détachement, un détachement opportun, on peut dire.
Ouais. Alors, on a vu que Clarisse Egbenienou, qui est une jeune maman comme toi, a amené sa petite fille sur les sites de compétition, même à l'entraînement, mais que c'était souvent de la fatigue supplémentaire engendrée. Comment tu gères, toi, avec la petite Côme, qui est toute petite, donc qui a besoin de sa maman, hein?
Oui. Elle a 10 mois et demi là.
Ah ouais.
Oui, c'est de la, ça prend beaucoup d'énergie, c'est sûr, de s'occuper d'un enfant. Mais après, je suis beaucoup entourée, et particulièrement par mon mari, qui est clairement la clé de voûte au niveau familial. Donc, je pense que sans un gros entourage, c'est plus difficile d'être à 100% pour un athlète. Et moi, je m'en rends bien compte, ouais. Donc, merci à ma famille et à Julien.
Ouais, Julien qui est entraîneur de biathlon, hein, ça tombe bien. Vous êtes tous dans la famille et la petite, elle devrait faire du biathlon quand elle sera grande, hein, j'imagine. Hein.
On verra, elle choisira.
Justine, donc après ces quatre épreuves ces quatre semaines d'affilée, il va y avoir une petite pause là, ou alors vous enchaînez encore directement les semaines qui viennent?
Non, il y a une pause de 2 semaines. Une pause, c'est la trêve la plus longue de l'hiver. Noël, et puis on repart en Allemagne, donc à Oberhof, à partir du 2 ou 3 janvier.
À Oberhof, où vous porterez le maillot jaune, le dossard jaune de leader du classement général de la Coupe du Monde, ça change quoi et ça a quelle importance pour vous?
Ça change rien du tout pour moi. Malgré tout, je suis heureuse. Ça veut dire que je suis dans le match fin décembre, hein, on parle de fin décembre, il reste encore 3 mois de compétition, donc je le prends, pour moi, je le prends avec le sourire, simplement.
Et ben voilà, puis ça va bien au teint, le jaune. Enfin, ça dépend des gens, mais les coureurs cyclistes adorent le jaune, par exemple. Tu vois, je sais pas, Justine, si toi tu aimes bien ça, mais en tout cas, ce sera ta couleur pour les prochaines épreuves de Coupe du Monde. Merci, Justine, bravo. Hein, franchement, 3 victoires en 3 jours. Seuls les plus grands biathlètes de l'histoire ont réussi ce genre de choses.
Thierry Lecoff, la dernière sur le circuit, et chez les Françaises, c'était Sandrine Bailly en 2004-2005.
Et ben voilà, ça vous classe quelqu'un. Merci, Justine. À bientôt.
Merci à vous.
Votre émission sur RMC avec Nikon Veroptique. Ne manquez aucun détail de la compétition de biathlon. Ceci est un dispositif médical.
Voilà, je vous rappelle que Brest mène 2-0 face à Nantes, que Justine Brezaz, elle, mène 3-0 face à la concurrence en biathlon, et que Alexis Peintureau s'apprête à s'élancer pour la deuxième manche du slalom géant d'Altabadia. On y retourne avec Bastoun, avec Arnaud Souk, pour vivre le deuxième passage de Peintu. La semaine dernière, il avait un peu raté sa première manche et s'était vraiment lâché en deuxième. On espère qu'il en sera de même, Arnaud et Bastoun.
Effectivement, on espère pour Alexis Peintureau que dans quelques instants cela puisse le faire. Un petit mot quand même de ce qui s'est passé jusqu'à présent, puisqu'on avait un Français qui avait très très bien marché. En l'occurrence, c'était Thibaut Favreau qui finalement est sixième provisoire. Et puis l'Andorran, le fameux Andorran, Joan Verdu, qui avait pris le premier podium pour un skieur d'Andorre la semaine dernière à Val d'Isère, eh bien vient de réaliser le temps scratch. C'est parti pour Alexis Peintureau, Bastoun. Alexis qui avait skié proprement en première manche, mais ça manquait peut-être un petit peu d'intention.
Ouais, ça manquait un peu de fraîcheur, surtout un peu long sur ses appuis. Il manquait de dynamisme dans son ski, alors qu'on l'avait vu faire un gros run ici à Val d'Isère. Mais en tout cas, il est au contact, il sera au contact parce que physiquement, il est solide sur des pistes qui sont difficiles, il connaît. Et la Grande Risale, il la connaît parfaitement.
Cinquième de la première manche, Alexis Peintureau qui pour l'instant fait jeu égal avec Joan Verdu, leader provisoire. Alexis Peintureau qui est à égalité au deuxième intermédiaire. On va voir ce que cela donne dans quelques instants au troisième inter. Il reprend de l'avance dans la partie très pentue de cette Grande Risale. 23 centièmes d'avance pour Alexis Peintureau. Désormais, c'est super ce que fait le skieur de Courchevel.
Oui, c'est beaucoup plus incisif. Il est beaucoup plus court au niveau du piquet, surtout dans la partie du mur. Il sait générer de la vitesse et c'est là où il est fort. Et maintenant, il faut skier le bas à perfection parce qu'il n'y a pas de grosses difficultés. Attention, là, il est un petit peu en retard sur la ligne.
Ouais, il est en retard et ça se voit d'ailleurs au quatrième intermédiaire puisqu'il a désormais 28 centièmes de retard. Alexis Pinturo, va falloir accélérer, emmagasiner sur le bas de la vitesse pour Alexis Pinturo pour espérer aller réaliser le temps scratch et pourquoi pas se battre pour le podium dans quelques minutes après le passage des tout derniers skieurs. Alexis Pinturo qui en termine juste derrière Johan Verdu, 14 centièmes de retard. Ce sera au pire la 6ème place aujourd'hui pour Alexis Pinturo. C'était pas du mauvais ski, mais voilà, c'est du Alexis Pinturo encore au rodage, on va dire, cette saison.
Ouais, il a su bien changer sa manière d'aborder cette deuxième manche, surtout dans le mur où il a skié vraiment court juste. Il fait une faute au niveau du mur avant le plat final où il a couru un petit peu après sa trajectoire et on l'a vu marquer un petit peu sous la porte où là il est revenu un peu long, marqué dessous un petit peu dans cette neige qui peut être un peu plus fraîche et forcément beaucoup moins de vitesse. Et derrière, ça fait 14 centièmes en bas. Hein. C'est pas un grand écart, mais en tout cas, il est au contact, il est là. Ça montre que le ski est solide aussi en géant.
Et il reste 5 skieurs à s'élancer, 4 skieurs, pardon, à s'élancer, Christophe, dont le vainqueur de la première manche, Marco Odermatt, dans quelques petites minutes.
Voilà, pour l'instant, il est sur le podium, mais ça va être compliqué quand même d'y rester pour Alexis Pinturo. Deuxième provisoire de ce slalom géant d'Altabadia. 14h19, les Nantais. Ils se sont procurés une belle occasion là, Pierre-Yves.
Allez, avec Moses Simon en face à face hein, avec Bizot. Il y a quelques instants, il y a eu aussi une très belle tête de Mohamed, bien stoppée aussi par le portier brestois qui est en feu et qui permet à cette équipe brestoise de maintenir cet avantage de 2-0 grâce à Magnetti 50e et Mounier 57e. Ils ont fait le plus dur du chemin et ça leur permet aussi de commencer à faire tourner un petit peu l'effectif avec deux entrants à l'instant sur cette pelouse de la Beaujoire.
La réaction nantaise, j'aurais préféré qu'elle arrive après le premier but là, 2-0, c'est compliqué, mais il y a quand même des bonnes situations, des choix avec la bonne entrée aussi de Marquinhos qui a un bon pied gauche qui peut mettre des bons ballons dans la surface. Après, pour l'instant, il y a Bizot qui est en feu en face, mais il reste encore un peu de temps hein. Il suffit de marquer un but pour les Nantais pour se remettre dans la partie.
Eh ben, on va voir s'ils se remettent dans la partie. 14h20, 2-0 donc pour Brest après 64 minutes de jeu. Et on attend de savoir si Alexis Pinturo va rester sur le podium de ce géant d'Altabadia. C'est pas gagné, mais on suit ça dans un instant avec Arnaud Souk et Sébastien Amiens, tout de suite.
RMC Intégral Sport. Christophe Cessieux.
14h24, vous êtes sur RMC l'Intégral Sport. On suit le match entre Nantes et Brest. Et pour l'instant, les Canaries se font dévorer tout cru par les Brestois. 68 minutes de jeu, 2-0 pour Brest. Et on va suivre également le final du slalom géant d'Altabadia. Il ne reste plus qu'un coureur à s'élancer. Ce sera dans quelques instants Marco Odermatt. Pour l'instant, c'est Zubzik, je ne sais pas comment on dit, qui est sur la piste. Pinturo, lui, n'est plus sur le podium, malheureusement, messieurs Souk et Amier.
Tu nous as tout dit, Christophe. Tu nous as fait un résumé parfait de ce qui est en train de se passer. Bon. Philippe Zubzik, oui, mais tu devrais venir à Val d'Isère à ma place.
Bah, j'aimerais bien, ouais, tu sais. Je sais pas utiliser les caméras et puis j'ai trop froid maintenant.
Sur la prononciation des noms, c'est quand même pas parfait.
Oui, c'est pas fou, hein, c'est pas fou. Alors là, en plus, il y a des noms un petit peu sympas à prononcer. On a un trio sur le podium provisoire. Philippe Zubzik, le croate, le slovène et Marco Schwarz, l'autrichien, donc qui pour l'instant sont sur le podium. Alexis Pinturo en 5e position provisoire. On va suivre dans quelques instants la star, la bête, le Golgoth, on peut l'appeler comme on veut, Marco Odermatt, qui est tout simplement le meilleur skieur de la planète et qui nous a montré encore ce matin, sans faire une manche extraordinaire, qu'il en a tellement dans les jambes, il a tellement de talent dans les jambes, Bastoun, que sans faire une manche extraordinaire, il est quand même devant.
Exactement, bon, il sort d'un gros week-end aussi, hein, de Val Gardena, avec les deux descentes, les descentes d'entraînement et le Super G. En tout cas, l'état de fraîcheur était là ce matin, du ski juste, en ligne. Voilà, du grand Odermatt, hein, on le sait, voilà, qu'il est capable sur deux ou trois portes de faire vraiment la différence qu'il a fait lors de la première manche. Mais en tout cas,
je suis pas le seul finalement. Hein.
Non, mais on l'appelle Zubko dans le
milieu du ski. Ah, bah oui, attendez, vous me dites pas tout aussi. Zubko, ça sera plus facile.
Pour la prochaine fois, Ami Lavaro, puisqu'il s'est imposé pour l'instant avec plus de 2 secondes d'avance sur Yann Kratzé.
Et c'est parti pour Marco Odermatt, le Suisse qui va donc chasser une nouvelle victoire en Coupe du Monde. C'est vraiment le meilleur skieur de la planète depuis désormais plusieurs saisons. 25 victoires en Coupe du Monde pour le Suisse et 15 en slalom géant. Il s'est déjà imposé à Altabadia à 2 reprises ces 3 dernières années. Donc vraiment, il sait faire, Marco Odermatt. Au premier intermédiaire, il a 6 centièmes d'avance malgré un haut, une mise en action qui semblait un petit peu moins efficace que celle de Philippe Zubzik.
Oui, un petit peu moins efficace. Ça ressort un petit peu moins vite des piquets, mais en tout cas, comme je le disais tout à l'heure, lui, il est capable sur quelques portes de faire tout de suite la différence. Là, il rentre dans le mur avec beaucoup de hauteur, beaucoup de justesse sur sa ligne.
Et on voit la vitesse de jambe qui fait la différence, puisque désormais il a 19 centièmes d'avance. Marco Odermatt au bout de deux intermédiaires. C'est super ce qu'est en train de faire le Suisse. Enfin, c'est super. Il n'y a rien d'extraordinaire finalement dans son ski, mais c'est d'une justesse vraiment très très parlante. Là, un petit peu de dérive pour Marco Odermatt, mais ça va lui permettre d'aborder cette partie un petit peu moins pentue avec de la vitesse.
Et disons que quand tout va bien, c'est facile le ski. Il y a juste à se mettre en ligne, appuyer sur les skis, laisser dérouler, prendre la vitesse. C'est ce qu'il fait à merveille depuis maintenant 3 ou 4 saisons. Et en tout cas, à chaque fois, il repousse encore ses limites-là. Parce qu'il faut aller le chercher le Croate, et c'est chose qu'il va faire aujourd'hui.
On va voir ce que cela va donner dans quelques instants pour Marco Odermatt, qui fait un bas de mutant et qui va s'imposer avec 19 centièmes d'avance ici sur ce slalom géant d'Altabadia. La deuxième victoire en une semaine sur slalom géant pour Marco Odermatt, 16e victoire en slalom géant en carrière et 26e victoire en Coupe du Monde. Le Suisse est tout simplement imbattable dans ce début de saison et sur cette discipline du géant. Et Alexis Peintureau qui va terminer 6e, ce qui est une performance, voilà, on va dire quand même relativement correcte pour le français.
Oui, oui, bah, de toute façon, il y a juste à regarder les écarts de temps. Odermatt en 2,29-23, le deuxième est à 19 centièmes et le troisième passe déjà à 2,26, alors que Peintureau est seulement à 2,81. Voilà, il y a 6 dixièmes du podium. Rien n'est inquiétant. Demain, on recommence sur la même piste. Donc voilà, ça sert aussi de repère pour ce qui est demain, deux manches de merveille. En tout cas, Alexis, je pense, va regarder la vidéo ce soir, savoir où il a été bon, savoir où il était moins bon. Ça a été une mixité des deux sur aujourd'hui sur les deux tracés. Il y a eu du très bon, il y a eu du moins bon, et demain on pense qu'il peut régler les choses.
Eh bien, on lui souhaite évidemment. Merci messieurs, victoire de Marco Odermatt, le meilleur skieur de la planète, qui frappe encore une fois aujourd'hui à Altabadia. Brest mène toujours 2-0 sur la pelouse de la Beaujoire. Il est 14h28, c'est l'heure du kit à chaud.
RMC, le défi hippique.
Enfin, c'est le défi hippique, mais moi je l'appelle le kit à chaud, présenté par Mathieu Zaccanini. Salut Mathieu.
Salut Christophe, salut Seb, on se retrouve pour un nouveau défi hippique aujourd'hui. Bah, le Quintet Plus, comme il est de coutume actuellement, se dispute sur l'Hipporome de Vincennes sur la distance des 2700 mètres. Ils sont 16 trotteurs à prendre part à cette compétition et nous sommes toujours avec Grégory. Bonjour Grégory.
Salut Mathieu, bonjour à tous.
Alors Grégory, qui est ton favori dans cette compétition?
Alors, mon cheval de cœur sera Boldevilliers. C'est un cheval qui a déjà trotté une 12-9 sur le parcours, battu par Arlène de Bussy, qui aurait été grand favori dans cette épreuve. Pour moi, vu ses aptitudes, c'est un bon débouleur. Pour moi, il a tous les atouts pour gagner cette course sans problème, même pour battre le grand favori.
Eh bien, c'est une très belle possibilité, hein, Grégory. Nous va lui opposer le numéro 12, Zinco Top, qui dépend d'un entraîneur en grande forme, c'est Fabrice Soulois, avec ses pensionnaires. Donc, on pense qu'il pourrait potentiellement inquiéter ce numéro 16. En tout cas, si le numéro 16 termine devant le numéro 12, tu reviendras demain pour un nouveau défi. Pique, bonne chance à toi, Grégory.
Merci beaucoup, à bientôt.
PMU, que les meilleurs gagnent. Jouer comporte des risques, appelez le 09 74 75 13 13, appel non surtaxé.
Merci Mathieu, voilà pour le défi hippique. Il est 14h29, elle avait son ticket, elle avait numéro 103. J'appelle donc Madame Marjac, s'il vous plaît.
Bonjour Léna. Bonjour Christophe, bonjour à tous.
Bonjour Léna, avec le mag olympique évidemment, qui devait être présent à 13h15.
Oui, voilà. Il y a une heure.
Tu peux déborder, il s'est passé plein de choses. Alors avec toi, on va parler mobilité, car pour se déplacer à Paris lors des Jeux, c'est pas simple, surtout lorsque vous êtes en situation de handicap. Mais un nouveau partenariat pourrait faire bouger les choses.
Oui, car Uber, entreprise de VTC, vient de nouer un partenariat avec la Fédération française Handisport. L'objectif, développer le nombre de véhicules accessibles aux personnes en situation de handicap, faciliter donc le déplacement, notamment des sportifs paralympiques pendant les Jeux. Moins de stress, moins de contraintes pour aller en compétition, à l'entraînement. Un reportage d'Alicia Baer.
Pas toujours évident pour Mona Francis, triathlète handisport, de commander un VTC.
Ça arrive souvent, hein, on commande des taxis, mais forcément quand ils voient l'ampleur des bagages et puis le fauteuil roulant, ils continuent son chemin et ils refusent de s'arrêter. Ça nous renvoie à notre handicap. En plus de ça, bah, quand on part en compétition, on pourrait éventuellement louper son vol.
Une charge mentale énorme pour ces athlètes en pleine préparation paralympique. Grâce aux 50 000 euros de la Fédération française handisport, les sportifs bénéficieront de réductions sur leur course Uber. Hakim Areski, défenseur de l'équipe de France de Cécifoot, utilisait jusque-là les transports en commun.
J'ai un entraînement de 2 heures et je mets 1h20 de trajet aller et 1h20 en retour. C'est un stress supplémentaire, ça induit à de la fatigue.
En début d'année, certains chauffeurs Uber étaient pointés du doigt sur les réseaux pour refus de prise en charge de personnes en situation de handicap. L'objectif de ce plan est aussi de sensibiliser ces professionnels. Jamel, chauffeur Uber, conduit un minivan depuis 7 ans.
Du coup, j'ouvre la rampe. Dès qu'il y a une personne qui se présente, je le prends.
Je le ramène directement derrière, je le pousse dedans. Tout est adapté pour la sécurité et pour le bien-être du client.
Formé en une journée au transport de personnes à mobilité réduite, il encourage ses collègues à le rejoindre avant les Jeux.
La demande est grande et le nombre de taxis est vraiment minime. C'est un peu compliqué pour nous. J'espère qu'il y aura de plus en plus de véhicules d'ici un an.
Pour répondre à cette forte demande, Uber vise à tripler son nombre de véhicules équipés d'ici les Jeux, où 350 000 visiteurs en situation de handicap sont attendus. Sami El Guedari, porte-parole de la Fédération française handisport.
Le métro n'est pas pleinement accessible et même plutôt pas accessible. Aujourd'hui, en tout cas, une chose est sûre, c'est qu'on chemine. La prise en compte des personnes en situation de handicap dans la réflexion d'une entreprise telle qu'Uber, c'est aussi prendre conscience que, en tant qu'entreprise, on a une responsabilité sociétale.
En dehors des VTC, l'État a aussi mis en place une aide exceptionnelle pour atteindre les 1000 taxis adaptés sur la période des Jeux olympiques et paralympiques.
Et les deux athlètes que vous venez d'entendre, Mona Francis en paratriathlon et Hakim Areski, membre de l'équipe de France de Cécifoot, vont donc maintenant faire des retours auprès de l'entreprise afin d'améliorer au maximum le service de VTC en vue des Jeux Olympiques.
Parfait, ma chère Léna. On va parler d'un ancien grand espoir de la lutte française.
Oui, il s'appelle Zelim Khan, Kadjiev, 29 ans, double médaillé européen. Mais en 2019, au championnat du monde à Nur-Sultan au Kazakhstan, le lutteur français est contrôlé positif au Vastarel, un médicament interdit depuis 2014 par l'Agence mondiale antidopage. 4 ans de suspension, mais depuis septembre, il est de retour et son ambition, les Jeux de Paris 2024. Morgan Mori est allé à sa rencontre à l'INSEP.
Un vendredi, fin d'année 2019, Zelim Khan Kadjiev sort de la mosquée. Il apprend qu'il a été contrôlé positif, médaillé au championnat du monde et sélectionné pour les JO à Tokyo. Il perd tout. L'enfant prodige de la lutte française s'est cru dans un cauchemar.
On peut dire que j'ai lâché quelques larmes. J'étais sous le choc, je comprenais pas ce qui se passait. Et ça a resté à peu près 10 jours comme ça. Je comprenais pas. Je croyais que c'était que les gens se sont trempés, que voilà.
La Fédération internationale de lutte le suspend provisoirement avant de trancher. Ce sera 4 ans de suspension. L'appel devant le tribunal arbitral du sport ne changera rien. Kadjiev devient un paria. Plus le droit de franchir la porte d'un club en France, ni de s'entraîner avec ses partenaires de l'équipe de France. Il va même en arriver à détester son sport.
Pendant 1 an et demi, tu me parlais pas de lutte. Tu me parlais pas de sport. Je détestais ça pendant 1 an et demi. Même mon grand frère, quand il faisait des pompes et des tractions, je le regardais, je lui disais arrête de faire ça, ça sert à rien, arrête de faire du sport.
Il s'essaie un peu au MMA, mais là aussi, sa suspension le bloque. Son téléphone sonne au bout du fil. Zoher El-Ouarak, cet ancien de l'équipe de France, est entraîneur en université aux États-Unis. Il tend la main à Kadjiev. Banco, le Niçois originaire du Daghestan, s'envole pour l'Amérique et prépare son retour. Grâce à un accord avec l'Agence mondiale antidopage, il peut reprendre la lutte à l'INSEP en septembre 2023, 2 mois avant la fin de sa suspension. Kadjiev revit auprès de ses amis et de ses coachs.
Une fois que tu le perds, c'est là que tu comprends ce que tu aimais dedans, pourquoi tu faisais ça. Tu comprends un peu plus les choses. Alors qu'avant, je faisais de la lutte. On va dire que je faisais ça parce que j'étais bon. La dernière fois, j'étais en compétition, la première compétition que j'ai faite. Sur le tapis, j'étais heureux, j'étais là, j'étais haut. Ça faisait longtemps.
On a fait la moitié. Allez, c'est là que ça va payer.
À la Fédération, on a suivi de près son retour. On n'a jamais douté. Patrick Vazeille, DTN adjoint, directeur de la performance.
Même au moment où la sentence tombe, bon, bah, c'est un humain, il prend un coup par la carafe. Mais par contre, on sent directement qu'il va rester concerné. Et avec Paris 2024 qui arrive derrière, c'est voilà, pour lui, il n'y a pas eu de suspense sur son engagement.
Prochaine étape, la compétition de Zagreb début janvier pour décider s'il est numéro 1 français en moins de 74 kilos. Puis il y aura l'Euro en février et surtout les tournois de qualification olympique au printemps. Un pari fou ?
Pas un pari fou, je sais que je suis capable. Si je savais que j'avais pas le niveau, je serais pas revenu.
À toi de poser les mains. Enlève-lui les mains. Enlève. Il a pas le droit de poser cette main sur ta tête là. Tu dois enlever la main sur l'avant-bras, tu lui enlèves.
Au mur de la salle de l'INSEP, les portraits des champions du monde et des médaillés olympiques français en lutte pendant sa suspension. Kadjiev a vu la photo d'Ibrahim Ghanem, champion du monde en gréco-romaine, s'ajouter. Kadjiev promet qu'il aura lui aussi un jour son portrait.
Crois au mon destin, je sais que j'aurai ma photo dessus. C'est mon rêve depuis que je suis petit et depuis que j'ai 6 ans. Chaque compétition, c'est une étape pour ce rêve-là, j'espère.
Kadjiev a mûri dans cette épreuve sur le mur opposé à l'INSEP. Les règles pour devenir un champion, notamment ne pas faire 2 fois la même erreur, Kadjiev le sait trop bien.
Un reportage donc de Morgan Mori. Et envolée aussi cette semaine, l'équipe de France masculine, championne olympique en titre, a annoncé son lieu de préparation pour les JO. Ce sera à Saint-Nazaire. Et le sélectionneur Andrea Gianni a de grandes ambitions pour son équipe.
We play at home. We need to confirm.
Nous jouons à la maison. Nous devons confirmer notre niveau, confirmer notre médaille gagnée à Tokyo. Ça, c'est une bonne motivation pour nous pousser à travailler dur. Alors, je ne sais pas si nous allons remporter une médaille à Paris, mais nous devons travailler pour essayer d'en gagner une. C'est le message que je veux faire passer. Nous sommes à un bon niveau, mais nous devons passer au haut niveau. C'est là la différence.
Voilà, une interview recueillie par Morgane Maury. Et du côté de l'équipe de France féminine de volley, elle se préparera à Laval.
Très bien, les autres résultats du week-end avec toi, Léna.
Oui, du skate avec les championnats du monde à Tokyo au Japon cette semaine. Et le français Vincent Milou a été sorti en demi-finale hier. Il termine donc 9e de ces mondiaux. En breakdance, les B-boys et B-girls étaient réunis à Hong Kong pour la Breaking for Gold, une nouvelle étape du circuit Coupe du Monde. La française de 16 ans, B-girl Sissi, a été éliminée en quart de finale. C'est le meilleur résultat de la délégation française. Et chez les garçons, B-boy Khalil a lui fini dans le top 16. Et enfin, en para-tir sportif, étape de Coupe du Monde à Al Ain aux Émirats Arabes Unis. La France repart avec 11 médailles, dont 3 en or avec 2 records du monde pour Tanguy de la Forest en carabine.
Merci beaucoup Léna. J'ajoute un dernier résultat. Il concerne Marie Bochet. Vous savez, c'était notre porte-drapeau lors de la cérémonie d'ouverture des Jeux Paralympiques de Pyeongchang. Eh bien, Marie Bochet, qui avait mis entre parenthèses sa vie de sportive, est revenue à la compétition cette année et elle a obtenu hier sa 103e victoire en Coupe du Monde et aujourd'hui la 104e victoire en descente du côté de Saint-Moritz. Elle est, on le rappelle, octuple championne paralympique, l'une des plus grandes championnes françaises. 14h38, les Canaries, eux, sont pas au mieux, Pierre-Yves Leroux.
Ah non, tu parlais du quita chaud tout à l'heure, on est dans le quita froid hein, du côté du président. Ça, je peux te dire que ça rigole pas. Mené 2-0 grâce à Mounier et Magnetti, les Brestois qui sont quatrième du classement général et qui continuent leur marche en avant. Une saison exceptionnelle hein, les hommes d'Éric Roy qui vraiment surprennent tout le monde sauf Jocelyn Grosvenet qui nous l'avait annoncé, encore une grosse frappe, et qui disait lui c'est pas une équipe surprise pour moi, je les vois régulièrement et ils sont constants à hauteur de ces 5 premières places. Et ça continuera puisqu'il y a une nouvelle victoire qui se dessine désormais. Il reste moins de 10 minutes à jouer avec les arrêts de jeu et Brest mène 2-0. Nouveau changement, la sortie de Merlin remplacée par Jaouen Adjam, sifflé comme 111 quand il est rentré tout à l'heure, comme Sissoko quand il est sorti. C'est pas une belle après-midi du côté de la Beaujoire. Après un bon début de Jocelyn Gourvennec, c'est un petit peu moins bien avec la défaite à Paris et celle-ci qui se dessine. Attention à Moses Simon sur le côté, ça sera un corner pour les Nantais dans quelques instants.
Ouais, ils n'arrivent pas à marquer ce but qui pourrait remettre tout en question.
Ouais, ils ont eu tout à l'heure deux occasions là après le 2-0. Brest, ils maîtrisent. Hein, il y a eu pas mal de changements aussi faits de la part d'Éric Roy. Il y a une profondeur de banc. On voit une équipe quand même qui est en confiance. Hein, les Brestois, ils prennent pas beaucoup de buts. C'est carré, hein, vraiment ce qu'ils proposent. Et puis les Nantais, il n'y a pas ce petit supplément d'âme, parce que quand on regarde les deux buts encaissés, c'est un petit peu dans l'attitude, hein, c'est des buts largement évitables. Et voilà, j'espère qu'ils ne vont pas retomber dans leur travers.
Allez, on suit le corner avec toi, Pierre-Yves.
C'est parti avec Florent Mollet. Deuxième poteau, c'est au point de pénalty. Il y a du monde, il y a Abline qui est rentré en jeu, mais ça lui passe à l'arrière du crâne. Et les Brestois qui vont pouvoir ressortir assez loin, à hauteur de la ligne médiane. Ça joue rapidement à la touche. C'est bien réalisé, ça, mais derrière, la défense nantaise s'était regroupée. Il va falloir reconstruire tout ça du côté brestois, mais ils ont les 3 points, peut-être pas très loin, qu'on va surveiller quand même. Mohamed de loin qui tente, c'est trop facile pour Bizot. On en reste à 2-0. L'avantage de Brest à la 84e, ouais, à la Beaujoire.
Défaite qui se profile à l'horizon pour les Canaries. 14h40 sur RMC. On revient dans un instant pour la suite et la fin de ce match. Je vous rappelle qu'à partir de 15h, vous aurez droit à 3 autres rencontres de Ligue 1. Lorient-Strasbourg, Metz-Montpellier et Toulouse-Rennes. Un peu plus tard, il y aura un match entre Lille et le Paris Saint-Germain. Il y a aussi la Mastart homme à Lenzerheide qui débute dans un instant. On va suivre ça avec Julien Richard après le triple succès de Justine Brezaz aujourd'hui. Vous l'avez vécu tout à l'heure sur RMC. À tout de suite. On s'est régalé avec les biathlètes féminines il y a quelques minutes. La victoire de Justine Brezaz et les Françaises qui sont bien placées. Va-t-il en être de même pour la Mastart? Ça vient de partir, ça part à l'instant même. Julien Richard, pour les garçons. Il est pas là.
J'espère en apéritif du France-Norvège de la finale du handball tout à l'heure. Là, les Norvégiens sont évidemment les favoris de cette première mass start de l'année. Dernière course de l'année d'ailleurs, de 2023, puisqu'après ils feront une pause. Quatre Français engagés, Quentin Fillon-Maillet, Éric Perrault, Émilien Jacquelin et Fabien Claude. Ils ne sont pas montés sur le podium cette saison en Coupe du Monde, les Français. C'est un début de saison mitigé, on va dire. Et en tête de ce peloton qui vient de s'élancer, eh bien le roi qui a retrouvé son trône et son dossard jaune, Johannes Bö, qui a repris les commandes du classement général de la Coupe du Monde. Christophe, juste un absent quand même à signaler, parce que l'histoire est assez incroyable. C'est le Norvégien Sturla Lægreid, troisième du classement général de la Coupe du Monde, qui a été exclu pour cette course pour un incident de tir. Je vais essayer de résumer ça rapidement, mais il s'est entraîné dans son hôtel, comme ils le font tous à la biathlète, avec la carabine, sauf qu'ils font ça à sec, c'est-à-dire sans balles, sauf que là, eh bien, il avait rempli ses chargeurs un peu trop tôt, et du coup il a tiré dans le mur de son hôtel. Il s'entraîne dans le couloir, sauf que là la balle est partie, sauf que là c'est vraiment l'incident très grave en biathlon, et ça va à l'encontre de toutes les consignes de sécurité qu'on apprend dès le plus jeune âge dans les clubs de biathlon. Bah du coup il a été exclu pour cette course. Alors il n'y a pas eu de blessés, il n'y avait pas eu plus de dommages que cela, mais ça, c'est un accident très rare et qui a coûté la place sur cette mass start, en tout cas à Sturla Lægreid.
Ouais, parce que c'est des carabines à plomb, mais
c'est des balles, hein.
C'est des vrais balles.
C'est des
22
longs rifs, hein. Donc,
c'est des 22 ronds. Ah ouais, donc oui, ça rigole pas du tout.
Ça rigole pas du tout. C'est pour ça que
tu prends ça dans les fesses,
chargeurs,
ça.
Habituellement, les biathlètes les remplissent avec les balles sur le pas de tir. Sauf que là, il l'avait fait le vendredi avant le sprint, et donc le vendredi soir, il a voulu faire un petit entraînement comme il le fait.
En rentrant de l'apéro, il s'est dit tiens, je vais prendre le gun là.
Incident rare, très rare, mais ça fait partie des consignes élémentaires de sécurité dans le biathlon.
Faire attention quand on descend dans le même hôtel que les biathlètes, fais attention la prochaine fois. Mon cher Julien, merci.
Votre émission sur RMC avec Nikon Verre Optique. Ne manquez aucun détail de la compétition de biathlon. Ceci est un dispositif médical.
Non, c'est pas Pierre-Yves Leroux que ça arriverait, ce genre de choses là. Il évite les hôtels.
Les Nantais, si à l'hôtel ils se sont entraînés dans les couloirs, je pense qu'ils auraient pu blesser quelqu'un aujourd'hui, parce qu'ils ont pas été très précis quand même au niveau de cette rencontre où ils sont menés 2-0. On est rentré dans le temps additionnel et Seb, j'ai une mauvaise nouvelle. Je pense que ça va être court, hein, pour la victoire aujourd'hui. Les Canaries, il reste plus de 3 minutes. Ça va être compliqué. Et non, mais il faut souligner surtout la performance brestoise. Il reste un match dans cette première partie de saison. Ils sont quatrième. Ils ont 4 défaites seulement et contre des gros. Donc vraiment, c'est la surprise, on peut le dire.
Ils reçoivent qui, Pierre-Yves, mercredi?
Reçoivent Lorient.
Ah oui, hein. C'est un derby aussi, et Lorient qui est mal.
Bien, hein. Qui est pas bien, ouais. Donc ça sera un match important pour les deux équipes, mais vraiment très belle première partie de saison des hommes d'Éric Roy qui se dirigent donc vers une victoire ici à la Beaujoire. Ils mènent 2-0 dans les arrêts de jeu, 3 minutes encore à jouer, des buts de Mounier et Magnetti qui sont sortis tout à l'heure. On peut pas dire que les Nantais ont pas joué le jeu, ont pas fait les efforts, hein. Ils ont eu de belles occasions, il y a eu un super bisote dans les buts, mais c'est ce que je disais,
quand tu regardes les deux buts qu'ils prennent, notamment le premier qui fait mal, je trouve que les Nantais, ils sont un peu attentistes, oui. ils doivent mieux faire, parce qu'après Brest, on sait que c'est pas flamboyant, c'est costaud, c'est forcément quand tu ouvres le score, après tu te rends le match un peu plus facile, et après ils sont dans la maîtrise. Après les Nantais, ils sont pas non plus amorphes, simplement près de leur surface de réparation, ou dans les deux surfaces de réparation, ils ont pas été bons.
Non, parce que les statistiques. Oh là, voilà la réduction de l'écart, mais ça est trop court, Ablin, magnifique.
Oh, attends, c'est pas trop court. Ce fameux troisième but dans un match, il arrive un peu tard, c'est vrai. On va peut-être rappeler Yoann Guillet. Il est où, Yoann Guillet? Il est dans les couloirs, il est où là?
Ah, il fait moi le mariage.
Voilà, là, il est en train de suer là.
Ça va peut-être être checké quand même, parce que. Mais Ablin, qui est vraiment, à chaque fois qu'il rentre, il est quand même très efficace. Hein. C'est vraiment un bon joueur. Dans cette surface de réparation, je revois les images à l'instant
pour
voir s'il n'y a pas une position de hors-jeu.
Non, c'était plutôt une. S'il n'y a pas de hors-jeu, ce serait une faute de Mostafa Mohamed, peut-être.
Ouais, alors.
Mais là, bon.
Il joue le ballon. Hein, donc je pense que ce but va être validé, à mon avis, mais il restera très très peu de temps derrière.
Belle reprise en tout cas, hein, beaucoup de spontanéité pour Abin. C'est pour un attaquant, pour lui aussi, surtout, c'est important pour la confiance.
Alors, il reste combien de temps avec tout ça là? Est-ce que c'est checké? Écoute, est-ce que c'est accepté?
Il restait 2 minutes au moment du but.
Il est validé,
je pense, va être validé, ouais. Alors Thierry Vella qui vient voir. Attention, vidéo, il va aller voir. Bon, on va prendre un petit peu de temps, mon cher Christophe.
Donc, le suspense est terrible là. Sébastien Piocelle n'a plus d'ongles.
Ah ouais.
C'est terminé en l'espace d'une seconde.
Ah, il a pas bouffé. Il n'y a pas faute, de, franchement.
Bon, après, bon, il n'y a pas faute. Il joue le ballon, hein. Il essaye de ressortir ce ballon.
Regardez les Nantais, là, les deux Nantais. Ah, vous êtes trop fort.
Non, c'est vraiment tout à fait objectif, Christophe. Je ne sais pas si tu vois les images. Pour moi,
ouais. Il met la semelle quand même. Hein.
Ouais, mais sur le ballon.
Ouais.
Bon, après, plus on voit le ralenti, plus tu te dis il y a peut-être faute finalement.
Benoît Mio qui est juste en dessous de moi là sur la tribune, il a pas mis beaucoup de temps et il va prendre sa décision. Il a regardé la vidéo et il indique qu'il y a faute. Bon, voilà, 2 buts à 0.
Bon, du coup, Johan Guillet,
il nous a cassé le suspense, cet arbitre là.
On pourrait pas être arbitre.
Oh non, mais sans.
Ah si, on pourrait être arbitre, mais d'un meilleur niveau.
Vu la faute, vous l'aviez pas vu, mais vous êtes pas des spécialistes. Moi j'avais vu qu'il y avait quand même une petite semelle.
Bien sûr, mais toi t'as un œil.
Ça aurait été Nice, il aurait pas vu.
Non, mais là quand tu revois le 17ème ralenti, franchement, il y a un petit quelque chose, quoi.
Bon. Ouais.
Bref, bah, c'est comme ça. Mais bon, là
comme c'est Nantes, ça se siffle, voilà, c'est tout.
Tu peux laisser repousser
de mauvaise foi, tiens.
Tu peux laisser repousser tes ongles, c'est terminé. 2-0.
Ouais, parce que cette fois, il y a plus de suspense. Elle est là pour les Canaries. Il reste 2 minutes à jouer dans le temps additionnel. Ce but signé Abline ne sera pas validé. La tête de Palois, ballon récupéré par les Brestois qui vont gagner un petit peu de temps. Ben pourquoi pas, ils vont aller de l'avant avec Satriano. Satriano, l'angle est fermé, il tente sa chance. Lafond qui repousse du pied Palois qui était au marquage. Et ça sera un corner en plus pour les Brestois, juste devant la tribune noire. 2-0, toujours ce temps additionnel qu'on a dépassé maintenant puisqu'il y avait 5 minutes. On est dans la 6ème désormais. Corner à venir avec Mollet qui s'agace, qui s'énerve là, qui estime qu'il n'y avait pas forcément corner, mais c'est un peu tard maintenant hein, pour s'agacer. De toute façon, la décision d'annulation du but a été prise et puis il y a cet écart de 2 buts, donc ça va être vraiment impossible désormais de revenir pour les Nantais.
Ouais, Julien, un tout petit mot. Fillon Maillet, il ne s'est plus tiré en fait, hein. il a perdu son habileté à la carabine en biathlon. En fait, depuis l'année dernière, hein. Julien. Oh, Julien, il est parti.
Il veut même pas en parler.
il a oublié de charger.
Il s'entraîne pas à l'hôtel. Hein.
Il a peut-être croisé l'Aigrid qui lui a tiré dessus là. Hein, non mais Fillon Maillet, on ne connaît plus. Hein.
Comme un peu toute l'équipe de France, effectivement, depuis le début de saison.
Emilien Jacquelin, bien.
Emilien Jacquelin, depuis la saison, je reprends ses stats, c'était pas terrible non plus. Même si là, effectivement, tu me dis ça parce que Quentin, il a commis 2 erreurs sur ce premier tir couché dans cette mastart et que c'est un Français malgré tout. A sorti en tête Emilien Jacquelin qui lui a réalisé le sans faute 5 sur 5, une erreur pour Fabien Claude et 2 erreurs pour Éric Perrault. Emilien Jacquelin en tête devant Tarier Beu et Johannes Beu est allé tourner sur la note pénalité.
Ah, ça lui fait pas de mal. À tout de suite Julien, 14h53, les dernières secondes de ce Nantes-Brest. On est à 7 minutes au-delà du temps réglementaire. Il est bien sur la pelouse d'arbitre.
Oui, c'est ça, Monsieur Millot qui se plaît à la Beaujoire. Ça y est, ça va être terminé, je pense. Voilà, c'est terminé. Le coup de sifflet final, Mounier et Magnetti qui permettent aux Brestois de l'emporter une nouvelle fois. Brest, 4e du classement de Ligue 1 et des Nantais bien, qui patinent un petit peu, qui sont en milieu de tableau, qui n'ont pas réussi à confirmer la victoire contre Nice il y a 15 jours.
Merci Pierre-Yves. Effectivement, Nantes pédale un peu dans la choucroute depuis quelques temps, mon cher. Même si c'est pas un plat du coin. Hein.
Non, mais c'est encore une fois, c'est surtout le contenu, parce que c'est une équipe Brest qui est vraiment en forme, hein, 4e du championnat. Mais voilà, quand on joue, alors Nantes est en milieu de tableau, mais voilà, on s'attendait un petit peu mieux par rapport aux 2 dernières rencontres qui étaient consistantes. Et voilà, et j'espère pour les Nantais que face à Lyon mercredi pour le dernier match de l'année civile, ils arriveront à prendre au moins un point là pour se caler en milieu de tableau.
En tout cas, il fait du beau travail du côté de Brest, Éric Roy, le niçois entraîneur donc de cette équipe brestoise, 4e du championnat. Merci Seb, tu restes dans un
restaurant.
Il y a ton copain Benoît qui arrive.
Il arrive. Ouais.
Enfin, normalement, s'il n'a pas croisé la grille dans les couloirs, il arrive, il est là. L'intégrale sport qui se poursuit dans un instant. Bon après-midi, ciao.